Alors bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, pour vous aussi, notre chaîne, pour les enfants et petits-enfants, un bon zivou, chaque enfant avec une bonne famille, avec une parnassa facile, et pas de salama et tout dans la goucha. Amen. Bon, évidemment, par rapport à ce qui s'est passé à Paris, on va dédier le cours, les Ilouï Nishmata, des quatre personnes qui ont été assassinées. Hachem, il venge leur sang.
Avec
Yassin,
un
des dessinateurs
juifs.
Oui, alors pour les pour tous ceux, pour toutes les Neshama de notre chaîne. Alors, donc ce thème du choix, est-ce que l'homme a le choix? Donc c'est une question très très générale qui aurait demandé en réalité une ou deux semaines de séminaire, mais je ne sais pas dans quelle mesure vous avez la liberté de pouvoir consacrer deux semaines. Et ça a aussi un rapport avec la paracha, mais c'est une chose sur laquelle on peut réfléchir un peu tous les jours de sa vie. C'est en fin de compte, c'est où est-ce qu'il est l'espace? Où est-ce qu'il est l'espace de liberté qui est laissé à l'homme? C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui sont importantes, tellement de choses qui sont liées les unes aux autres, et tellement de liens de causalité entre toutes les actions d'un homme et toutes les destinées humaines, que c'est difficile de trouver à l'intérieur même de la destinée personnelle où est-ce que le choix y reste. Et cette notion-là, elle est développée à travers la paracha, parce qu'on est en train de lire. En ce moment, c'est toutes ces parachutes où Akadosh Baruch Hu, il envoie Moshe Rabbeinu pour sortir les Bnei Israël d'Égypte. Et à chaque fois, c'est marqué que Pharaon s'est endurci le cœur. D'abord, c'est marqué Balir, Balir qui est libo, j'ai endurci son cœur. Et c'est aussi marqué que Pharaon lui-même, il s'est endurci le cœur. Et là, on a déjà expliqué quelques centaines de fois que quand on lit la Torah, on ne doit pas la lire comme un livre d'histoire qui nous raconte ce qui s'est passé à l'époque, et nous on essaie de tirer une leçon. Parce qu'on a déjà expliqué que c'est marqué dans le Midrash Tanhuma que 974 générations avant la création du monde, Hachem a écrit la Torah. D'accord ? Donc la Torah, elle ne vient pas pour raconter ce qui s'est passé, puisque la Torah, elle était écrite avant que la chose se passe. Maintenant, on n'est pas obligé de dire que dans la Torah, c'était marqué l'histoire comme elle s'est passée. Mais seulement que la Torah, c'est un ensemble d'éléments dont les différentes combinaisons peuvent donner l'histoire qui s'est passée. Mais ce qui est sûr, c'est que l'enseignement de la Torah, c'est-à-dire ce qui est nécessaire qu'un homme sache au niveau de sa relation avec la mitzvah et de sa relation avec Hachem et de sa relation avec la nature, elle est inscrite à l'intérieur de la Torah. Après, seulement que quelqu'un peut le lire. Donc quand on prend un principe comme ici de Israël et qui sont en Égypte et qu'il y a Pharaon au-dessus de leur tête et qui sont en esclavage et ensuite on leur propose la liberté et que la liberté elle est pour donner la Torah, donc tout ça on peut le lire aussi que Mitzrayim c'est Metzarim, Metzarim c'est les limites, que les limites de l'homme en vérité c'est quoi? C'est ses limites intérieures et les limites qui sont imposées par la société. Et que Pharaon, en fait, c'est le Yetzirara qui empêche l'homme de se libérer. Et que Akadosh Baruch Hu, il envoie Moshe Rabbeinu. En fait, qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie le Yetzirah Tov, le bon penchant qui donne l'initiative. Et que les Bnei Israël, s'ils sortent, c'est pour aller dans le désert. Parce que le désert, c'est l'inconnu. Ouais, ça s'appelle la Teshuvah en français. D'accord? Et que pour ça, il faut la Torah. Et que c'est dans le désert qu'on reçoit la Torah. Donc on peut relire exactement dans un contexte personnel, une histoire qui a priori est une histoire communautaire, l'histoire du peuple. Et bien c'est exactement pareil dans la vie de chacun. Que dans la vie de chacun, chacun il est dans sa propre Égypte. Vous voyez, celui-là il est dans son Égypte parce qu'il est obstiné, il n'arrive pas à dialoguer avec sa femme, d'accord? Celle-là elle est enfermée dans sa peur, parce que quand elle était jeune, elle avait des complexes, alors maintenant elle est enfermée. À l'intérieur d'elle-même, il y a quelqu'un qui lui dit « De toute façon, t'es nul, de toute façon, t'es pas capable. » C'est son pharaon personnel. Maintenant, elle a quelqu'un qui lui propose, son rave ou son thérapeute, qui lui dit « Mais sors d'Égypte, tu peux sortir d'Égypte. » Alors, il dit « Mais pour ça, il faut que tu acceptes la Torah. » Ça veut dire quoi? Il faut que tu prennes sur toi certaines choses qui vont t'obliger à grandir. Mais le problème, c'est que sortir d'Égypte, ça veut dire rentrer dans l'inconnu. Et des fois, vous savez, les gens qui ont fait 30 ans de prison, ils sont tellement bien dans la prison que le jour où on les libère, ils vont frapper un policier pour retourner en prison. C'est pas qu'ils sont bien, c'est qu'ils sont habitués. Là-bas, ils sont pris en charge, on leur dit ce qu'il faut faire, ils rentrent, ils sortent. En fait, ils n'ont pas de responsabilité. C'est un syndrome chez les gens qui ont fait de la prison, qu'en fin de compte, ils prennent un format de prisonnier et ils restent en prison. Et ils veulent retourner en prison. Alors maintenant, il y a les prisons qui sont autour de la personne et il y a les prisons qui sont à l'intérieur de la personne. Donc il y a une certaine complicité Combien de fois je vous ai expliqué que quand on veut réfléchir à la culpabilité du bourreau, il faut aussi réfléchir à la complicité de la victime. Parce que si quelqu'un te fait du mal, c'est un accident. Mais si la difficulté elle dure pendant des années, ça devient un phénomène. Et un phénomène ne peut pas durer s'il n'y a pas de complicité. Donc la victime, elle est aussi complice de son bourreau. Moi, j'ai des gens au téléphone. Quand les gens t'appellent, ils te parlent de leur conjoint. Ouais. Quand ils te parlent, c'est toujours le bourreau. C'est normal. C'est rare que le bourreau, il t'appelle pour te dire « je suis le bourreau ». Donc il t'appelle pour te dire « je suis la victime » et l'autre, c'est le bourreau. Alors tu dis « ça ne vous dérange pas, je voudrais entendre la version de l'autre bourreau ». Donc maintenant, j'écoute l'autre bourreau. L'autre bourreau, évidemment, il me dit que c'est l'autre qui est bourreau. D'accord ? Donc j'ai un problème. Alors, il y a deux bourreaux. Ou deux victimes. Alors moi, qu'est-ce que je fais ? Je prends le temps d'expliquer à la personne que peut-être qu'avant d'essayer de se libérer du bourreau qui est à l'extérieur, il faudrait voir dans quelle mesure est-ce que tu n'es pas victime de ton propre bourreau. Ça va ? C'est-à-dire que toi-même, tu es ton propre bourreau. Toi-même, tu t'écrases. Toi-même, tu te fais du mal. Toi-même, tu te limites. Ouais. Toi-même, tu t'enfermes. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Égypte, on a compris maintenant, c'est un modèle. L'Égypte, c'est un système. Et les systèmes de l'Égypte, ils existent dans toutes les générations. Ils existent dans toutes les personnes. Ouais, celui-là, il est enfermé dans la maladie. Celui-là, il est enfermé dans le complexe. Celui-là, il est enfermé dans son côté têtu. Celui-là, il est enfermé dans sa colère. Celui-là, il est enfermé dans sa peur. Chacun, il a des formes d'enfermement. Et à l'intérieur, il y aura toujours un dialogue, il y aura toujours une conversation à l'intérieur de la personne, une qui lui dira, de toute façon, eh ben reste comme tu es, à quoi ça sert de changer, de bouger, et quelqu'un d'autre qui lui dira, mais quoi, tu as le droit à la liberté, tu as le droit au bonheur, tu as le droit de réussir. Oui, donc il y a Moshe Rabbeinu qui parle avec Pharaon, Yetzer qui parle avec Yetzer Hatov, à l'intérieur de la personne. Mais encore une fois, pour ça, il faut qu'il sorte dans le désert. Parce que c'est confortable la prison, c'est confortable la victimisation, c'est confortable la douleur, c'est confortable la jeunesse. C'est confortable l'inconscience. Ouais. Combien les gens y paieraient pour retrouver le temps de l'insouciance ? Ouais. Mais le temps de l'insouciance, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui avait des soucis à ta place. C'est ça l'insouciance. Ouais. C'est pas l'insouciance, l'insouciance. Ouais. L'insouciance, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va être conscient à ta place. Donc lui, il a la conscience et toi, tu as l'insouciance. Donc quelqu'un a le souci, ne t'en fais pas. Donc ton époque de l'insouciance, c'était tes parents qui avaient les soucis, c'était tes professeurs qui avaient les soucis, c'était ton rab qui avait les soucis. T'en fais pas, il y avait quelqu'un qui avait les soucis. Il n'existe pas une situation où il n'y a pas de soucis. Même si tu kiffes la croisière, mais le capitaine, il est pas en vacances. Lui, il conduit le bateau. Ouais. Et toi, tu rigoles à l'arrière de la voiture, mais le chauffeur, lui, il fait attention. C'est normal. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'insouciance, c'est une illusion d'optique qui est créée par un système. Maintenant, c'est pas grave, parce que quand le temps que tu as eu l'insouciance, c'est pour ensuite pouvoir avoir la force d'être toi, un homme de conscience. C'est normal. Et en fait, c'est des étapes qui passent. Tu vas laisser tes enfants qui font l'insouciance pour qu'ensuite eux-mêmes ils soient des hommes conscients. Et bien, cette logique-là, cette logique en fin de compte, que toute sa vie, un homme, il va traverser plusieurs sorties d'Égypte. Ouais. Il va lui-même se libérer. Il va accoucher de lui-même. Il va se réaliser. Il va développer son cours. Il va faire tes chouva. C'est bien, des fois à 30 ans, des fois à 40 ans, des fois à la bar mitzvah du petit-fils. Le grand-père, il prend conscience. Il dit, c'est pas normal. Ouais, parce qu'il dit, le petit-fils, il dit, mais il prend la voiture. Alors, le grand-père, il dit, mais c'est l'égoïme. Ah, après le grand-père, il appuie sur l'ascenseur. Alors le petit-fils, il dit, ah, t'es un goy, papy. Alors là, il est un peu mal. Il hésite entre lui mettre une baffe et lui dire, mon fils, t'as raison. D'accord, c'est compliqué. Donc ça veut dire quoi ? C'est que maintenant, toi, tu as une Égypte qui s'appelle les habitudes. L'autre, il a une Égypte qui s'appelle l'ignorance. Tu dois te libérer d'Égypte. Va apprendre, va étudier. Ouais, les plus grands dictateurs, tout le monde le sait, la première chose qu'ils font quand ils prennent un pays, c'est qu'ils tuent les universitaires et ils ferment les universités. Parce qu'ils savent que les gens qui réfléchissent vont se libérer. Donc qu'est-ce qui fait le plus grand des dictateurs du monde qui s'appelle le Yetzer Hara ? Il empêche les Juifs d'étudier la Torah. Parce que Ostim Torah, celui qui étudie la Torah, c'est lui qui est libre. Comment on appelle Tamit Racham? Comment on l'appelle le sage? On l'appelle Igyan et Parashat Drachim. Il est arrivé à la croisée des chemins. C'est en vérité celui que tu crois qu'il est enfermé parce qu'il a sa guémara, il a ses interdits. En vérité, c'est lui qui est libre. Parce que Rabotai, n'oubliez jamais que celui qui peut faire le bien, il peut faire le mal. Mais celui qui s'est formaté à faire le mal, il a beaucoup de mal à faire le bien. C'est-à-dire que celui qui fait le bien n'a pas renoncé à son libre arbitre. Mais celui qui fait le mal de manière répétitive, il renonce à son libre arbitre. Celui qui ment tout le temps, il a du mal à dire la vérité. Celui qui a gagné de l'argent facilement en volant, il a du mal à revenir à 1000 euros par mois alors qu'il a pris 20 000 euros en volant. Ouais. Celui qui a menti pendant des années à sa femme, il a du mal à dire la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, le libre arbitre, il est donné à celui qui va l'utiliser. Mais celui qui va le subir, alors il perd le libre arbitre. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais séparer la notion de liberté de la notion de libre arbitre. Et il y a un langage incroyable. On a lu dans la paracha d'avant, quand Hachem, il a envoyé Moshe Rabbeinu pour aller sortir les Bnei Israël d'Égypte, alors Moshe Rabbeinu, il a demandé, par quel nom est-ce que je dois te nommer? Et c'est là que Moshe Rabbeinu, il a prononcé le nom, Ehi Asher Ehi, je serai celui que je serai. Maintenant, à partir de maintenant, je vais vous dire Eke Asher Eke, pour ne pas dire ce nom.
Et c'est Hachem.
Oui. C'est Hachem. Oui, Hachem, il a dit, c'est ce nom-là. Maintenant, on a un problème avec ce nom-là. Parce qu'il y a une marloquette dans les commentaires. Est-ce que ce nom-là, il est kadosh ou il n'est pas kadosh? Je vous explique ce que ça veut dire. Si vous réfléchissez bien, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, je serai celui que je serai. C'est un nom divin. D'accord? Maintenant, quand on lit le Midrash, il dit comme ça. Vayomer Elokim el Moshe, Hachem a dit à Moshe. Alors il dit comme ça. Amar Rabbi Abba bar Mamal. Amar le Akadosh Boku le Moshe. Hachem il a dit à Moshe. Shemi atamevakesh le da. Mon nom, tu veux connaître? Il a dit, les filles ma'asayat aminikra. Selon mes actions, je suis appelé. Il a dit, parmi m'shaninikra bekel shakai. Des fois, on m'appelle shakai. Shakai, shin daletiou, le nom qui est marqué sur la mezouza. Des fois, on m'appelle tzvaot. Ouais, Hachem tzvaot, c'est un des noms d'Hachem. Des fois, on m'appelle Elohim. Des fois, on m'appelle Hachem, yudke vavke. Ouais, le tétragramme. Alors il dit comme ça. Kishani danetaberiot, quand je juge les créatures, anidikre Elohim, je m'appelle Elohim. Kishani osé milchama, lorsque je fais la guerre contre les Réchaïm, anidikre tsevaot, je m'appelle Hachem tsevaot, le dieu des armées. Kishani tolé al-khatam sheladam, quand je fais dépendre les fautes de l'homme, anidikre kel shakai. C'est quoi shakai? Shamar le alamo, dai. Ouais? Ça veut dire qu'à un moment, Hachem, il dit, ça suffit, stop. Ça suffit, t'as fait trop de bêtises, ça suffit, stop. Pareil, ouais. Après, Kishani merachem olami, et lorsque j'ai pitié de mon monde, alors, Aninikri Hachem, je m'appelle Hachem. Hachem, c'est quoi? C'est Yud Kevavke, c'est 26, c'est la miséricorde. Ça, qu'en vérité, chaque nom d'Hachem, c'est une facette d'Akadosh Baruch Hu. Attention, après, il dit. Pourquoi Sheen Hachem et la Midata Rachamim? Il dit le Midrash, parce que quand c'est marqué Hachem, c'est quoi? C'est la qualité de miséricorde de Rachamim chez Neymar, parce que c'est marqué Hachem, Hachem, Kel Rachou Mechanoun. Ça va? Et il termine le Midrash en disant Ave, et c'est cela, Eye Hacher Eye, Aninikra Netima Asai. C'est ça, je serai celui que je serai, je suis appelé selon mes actions. Vous avez compris le Midrash? Oui, non? Je ne crois pas que vous avez compris. Ça veut dire qui? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nom Ehi Asher Ehi n'existe pas. C'est juste la définition qu'à chaque fois Hachem, il va être selon ses actions. Donc quand tu vois que la vie elle est dure, c'est Loki. Quand tu vois que la vie elle est généreuse, c'est qu'elle, réclamée. Quand tu vois que la vie elle a pitié de toi alors que tu ne mérites pas, c'est Rachum Vechanou. Quand tu vois que la vie elle est miséricordieuse, c'est Hachem. D'accord? Et ça c'est quoi? Ça va être les facettes d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, comment s'exprimer ça? C'est parce que, Eke Asher Eke, je serai celui que je serai. D'accord? C'est comme si tu dis, bon, c'est comme si tu dis à quelqu'un, bon, alors qui tu es? Ah, je te dis, bah tu verras bien. Comme le garagiste, quand vous lui demandez, combien ça va me coûter? Tu dis, je te fais un bon prix. Ça veut dire que tu peux faire une caniche déjà, ouais. Je vais te faire un prix, je vais te faire un prix. Dis-moi combien ça coûte? Je vais te faire un prix. Ça veut dire que tu vas mourir, ouais. Tu ne peux pas te le dire en une fois, il faut que tu t'habitues pour ne pas avoir un infarctus. Sinon, il dit pas chez le cardiologue d'abord et après tu vas en garage. Mais c'est quoi? C'est ça, Eke Acherike. Je serai celui que je serai. Donc en vérité, si Hachem, le nom d'Hachem, Hachem il existe, le nom Elohim existe, le nom Rachum Echanon existe, mais le nom Eke Acherike n'existe pas. Si oui ou non? C'est celui qui va être à chaque fois. Ça va? Oui ou non? C'est pour ça qu'il y en a qui disent que ce nom-là n'est pas Kadosh. Il y en a qui disent au contraire, c'est le plus Kadosh de tout. Pourquoi? Parce qu'il contient tous les autres noms. À tel point que quand vous prenez la valeur numérique de Eye, ça fait 21. D'accord? 21. Non, jusqu'à la fête, c'est 26. Mais celui-là, le E, ça fait 10, plus le Yud, ça fait 10. Ça fait 10 et 10, ça fait 20, plus 1, 21. Donc Eye, c'est 21. D'accord? Maintenant, Eye, Asher Eye, c'est 21 fois 21. Et 21 fois 21, ça fait 441. Et 441, c'est Emet. C'est la valeur numérique de Emet. Et Emet, c'est un nom d'Hachem. D'accord? Maintenant, je vous rappelle que c'est quoi Emet? Emet, c'est pas seulement la vérité. Ouais. Emet, c'est aussi Matim. Matim, Matim, c'est adapté. Ouais. Les Amet Dvarim, c'est quoi les Amet Dvarim? C'est rendre Emet, mettre les choses en correspondance. Ça veut dire qu'une vérité que tu ne comprends pas, une vérité que tu n'acceptes pas, une vérité qui n'est pas adaptée à toi, elle n'est pas vraie pour toi. Elle n'est pas vraie pour toi. Ouais. Toujours je donne cet exemple. L'enfant, il vient de voler, il y a 2 minutes. Tu l'attrapes, tu lui mets une baffe. Il dit rien, il baisse la tête. Mais si tu attends 6 mois et tu lui mets une baffe, mais il a une haine, quelle différence? Tu te rappelles, tu avais pris 10 euros dans le portefeuille du maman. Paf! Pourquoi il se rebelle? Et pourquoi tu me frappes? De toute façon, tu ne m'as jamais aimé. C'est 10 euros, c'est ça ton amour? T'es un radin, t'es une barre de fer, t'es un bras séché. Pourquoi il se met dans un état pareil? Alors que si au moment même que tu l'as attrapé, il est encore en train de trembler devant le sac, tu le mets là-bas, il ne dit rien. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu l'attrapes tout de suite, il sait très bien pourquoi. Quand tu l'attrapes 6 mois après, lui, entre temps, il a dit, c'est pas bien que j'ai volé. Après, il a dit, j'ai besoin d'argent de poche. Après, il a dit, pourquoi me donnerait à mes parents? Après, il a dit, eh ben, c'est pas grave, de toute façon, je les rendrai quand je pourrai. Après, il a dit, c'est une mise à se voler parce qu'il ne donne pas l'argent de poche. Il a déjà légitimé, il a déjà cachérisé. Donc maintenant, la baffe, il ne peut pas la recevoir. Tu sais pourquoi? Parce que le gars qui l'a volé, il a disparu. Parce que celui qui l'a volé, c'est la mauvaise conscience. Mais lui, il s'est débarrassé de sa mauvaise conscience. Donc c'est un innocent qui a été frappé. Et quand tu frappes un innocent, il ne supporte pas l'injustice. Tu dis, mais Yahmad, c'est toi. Voilà les photos, il y a tes empreintes, on a les vidéos. Ça n'a rien à voir. Le temps, il est passé. Ça, c'est quoi ça? Ça s'appelle le Emet. Oui, le Emet, ça veut dire que c'est Matim. Matim, ça veut dire que je suis en face. C'est pour ça que je vous donne toujours l'exemple du miroir. Quand je suis devant un miroir, eh ben, l'image dans le reflet, elle est la même que la personne qui est en face du miroir. Oui, non? Oui? C'est normal. Voilà. Donc je dis que le reflet, il est matim. Oui? Il est adapté, il est cohérent avec l'objet qui est devant. Maintenant, le problème du miroir, c'est que quand je m'éloigne du miroir, le reflet, je le vois en petit. Mais quand je m'éloigne de Dieu, Dieu, je le vois en petit. Et quand je me rapproche, je le vois en grand. Mais si je regarde bien dans le miroir, qu'est-ce que je vois? Je vois moi. Alors regardez, il y a un autre midrash qui est rapporté par le Ramban là-bas, sur le nom. Eke Asher Eke, il dit comme ça. C'est quoi ça? Il dit, Oumaou Eke Asher Eke, c'est quoi ce nom-là? Keshem She'ata Ove Imi, Kach Ani Ove Ima. Parce que je vous rappelle que Ié, en fait, c'est au futur. D'accord? Et Ové, c'est au présent. Maintenant, c'est le même verbe, ouais, mais seulement il est au futur. Donc quand je dis, je serai celui que je serai, c'est-à-dire au futur, je serai celui que je serai. Mais au présent, c'est quoi? C'est je suis celui que je suis. Maintenant, là, on voit encore mieux l'image du miroir. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il dit, Keshem She'ata Ové Imi. De la même manière que toi, tu es présent avec moi, alors moi, je suis présent avec toi. Donc maintenant, comment il faut traduire « je serai celui que je serai » ? « Je serai avec toi celui que tu seras avec moi. » C'est ça qu'il dit. « Im potrim et yedem veosim zdaka » Si l'homme, il ouvre ses mains et il fait de la zdaka, « Af ani eftah et yadi » Moi aussi, je vais ouvrir ma main. « Shenema iftah Hashem lecha et otzro atov » il va ouvrir à Hachem son trésor, son bon trésor. C'est-à-dire qu'en fait, la vie, c'est un miroir. Oui, c'est comme les enfants. Les enfants, tu les stresses, ils sont stressés. Mais pourquoi? Parce que tu es stressé. Oui. Les enfants, c'est cool, ils sont cool. Parce que tu es cool. D'accord? Maintenant, c'est-à-dire que tu dis, mais toi, tu t'étonnes que la vie, elle ressemble à ça. Mais la vie, elle n'est que le reflet de ce que tu es. Et qu'est-ce que c'est la vie? La vie, c'est Hachem, puisque le relief de la vie, c'est Hachem. C'est comme si quelqu'un il est caché derrière un rideau. Comment tu sais qu'il est là? Ben d'abord, il y a ses chaussures qui sortent du rideau. Ouais, mais à part ça, le rideau, il a la forme de la personne. Donc c'est quoi la nature? La nature, c'est la forme de la vie qui habille Hachem. C'est pour ça qu'on dit Hachem, le nom Hachem, Yud-Kevavke, qui est caché derrière la nature, Mitlabesh be'elokut, il s'habille de Elokut. Et Elokut, c'est quoi? C'est Elohim. Et Elohim, c'est la même valeur numérique que Ateva. Et Ateva, c'est la nature. Donc la nature est la vie de Dieu. Maintenant, moi, le problème, ça va dépendre à qui je m'adresse. Nous, on fait des brachot. Vous faites des brachot. D'accord? Donc quand vous mangez une pomme, vous dites Baruch Ata Hashem, Elohim Melechara, Boré Peri, Aïs. Maintenant, d'après ce qu'on vient de dire, ouais, si vous réfléchissez bien, celui qui croit fermement à la nature. Et celui qui pense que les scientifiques ont raison et qu'il y a des lois de la nature et derrière il n'y a rien. Et celui qui pense que la réalité elle est immuable. Et celui qui dit que le marché en ce moment il est mauvais. Et celui qui dit que la conjoncture est difficile. Et celui qui dit que ça se passe très mal dans le business en ce moment parce que les magasins ne marchent pas. Vous savez ce qu'il fait lui? Lui il est paralysé par ce qu'il voit, par la nature. Donc lui quand il mange une pomme, il ne doit pas dire Baruch Ata Hashem, il doit dire Baruch Ata Elohim. T'as compris ce que je dis ou non? Parce que le médecin il va dire écoutez, les métastases sont développées dans tout le corps. Et ça c'est la nature, on va voir qu'est-ce que tu veux faire. Mais lui il dit non, moi j'ai allumé Rabbi Meir Baranes, ma grand-mère elle m'a dit que ma femme elle va avoir une longue vie. Ouais, on a allumé des veilleuses, et moi je lui ai dit Baruch Ata Hashem qui va avoir une Géoula. Le médecin il a arrêté de faire vos enfantillages. Et le lendemain, il refait l'examen, il n'y a plus rien. Alors, il y a un problème, il dit, bon, ben, ça doit être une erreur médicale. Parce que le miracle, ça n'existe pas le miracle dans Elohim, c'est dans Yud Kevavke. Parce que Elohim, ça veut dire les choses, elles sont posées, elles sont figées. C'est-à-dire que quand toi, tu n'as pas confiance en toi, et tu dis, je suis nul, et je ne suis pas capable, et je ne vais pas réussir, en vérité, toi, tu crois dans Elohim. Et comme Hachem, il est ce que tu fais de lui, parce que c'est un miroir. Donc maintenant, ça ne va pas aller à l'école. Tu vas rater tous les examens. Mais si toi, tu dis non, c'est difficile, mais je vais travailler, je vais réussir, je vais m'en sortir, je vais faire. Toi, tu crois Yud-Kevavke. Yud-Kevavke, qu'est-ce qu'il fait? Yud-Kevavke, il est le potentiel, il n'est pas le réel. Et le potentiel, il peut toujours changer. Alors vas-y, fais changer le potentiel. Donc elle va tomber enceinte. Le magasin, il va remonter. Amazon, on va la vendre. Oui. La situation, elle va changer. C'est comme ça. Mais il faut croire. Ouais. La croyance, c'est comme si tu es dans la jungle et tu arrives devant une source. Et il y a une chute d'eau. D'accord? Donc tu vois la montagne et la chute d'eau. Et puis tu es tranquille au bord de la rivière, comme ça. Et tu entends. C'est qui, toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Attends, je suis seul dans la jungle. Et après, tu regardes bien et tu vois que le son, il vient en fait de derrière la chute d'eau. C'est-à-dire qu'en fait, derrière la chute d'eau, il y a une caverne. Et dans cette caverne, il y a quelqu'un. Ça va. Et cette personne-là, elle parle. Et toi, tu l'entends. C'est ça, la Emouna. La chute d'eau, c'est quoi? C'est la nature. Et toi, tu dois avoir conscience de ce qui se passe derrière la nature. Maintenant, là où tu as placé Hachem, là-bas, il est Hachem. Ça va. Donc celui qui a fait de ses pulsions un dieu, parce qu'il dit moi j'arrive pas, je suis coléreux, moi je peux pas, je suis obsédé, moi je peux pas, je suis radin, en fait il a fait que ses pulsions elles sont plus grandes que lui. Donc son ami, il s'est effacé devant ses pulsions. Donc son dieu, c'est devenu son corps. Et donc son dieu va le dominer. Donc lui il dit bah on fera ta pulsion. C'est comme ça. Et quand vous essayez de l'aider, il dit, je ne peux pas. Je suis coléreux, je suis coléreux. Je suis obsédé sexuel, je suis un obsédé. Mon psy me l'a dit, je suis un malade, je suis un écœurant, je suis un pervers. Et ben, avant d'être pervers, tu étais pur. Tu t'es pourri la tête. Tu as subi quelque chose, on t'a touché quand tu étais petit, tu as vu des images dégueulasses, tu t'es laissé aller, tu manques du respect de toi-même, et comme tu n'as pas assumé par ici, tu as essayé d'assumer par là, il s'est passé quelque chose. Mais ce n'est pas que tu es né pourri. Personne ne naît pourri. Tous les enfants du monde, ils sont innocents. Mais après, il y a des dérives. C'est-à-dire qu'au moment où tu devais exister, au moment où tu devais te réaliser, ta pulsion intérieure qui venait de la Neshama, elle était pure, mais seulement à l'intérieur de toi-même, il y a quelqu'un qui t'a proposé d'exister à ta place. Et c'est là que tu as renoncé au niveau. C'est là que tu as renoncé au choix. Et c'est là que tu as limité ton choix. Parce que tu t'es laissé aller à l'animal qui est en toi. Maintenant, tout le monde a un lèvre et tout le monde a un kélèvre. Tout le monde a un cœur et tout le monde a un chien. Et des fois, tu te surprends à te conduire comme un chien. Parce que quelqu'un n'est pas forcément obsédé. Mais quand il a un bon lashon hara sur sa belle-sœur, c'est très très dur. C'est ça que je vous avais dit un million de fois, que la Torah, elle demande à chaque juif d'être surnaturel. Vous vous rappelez de ça ou non? Mais surnaturel, c'est pas de flotter au milieu de la synagogue comme ça en l'air à 3 mètres de haut, waouh, ou de marcher sur l'eau. Un gars chez nous qui a fait ça il y a 2000 ans, on a eu que des problèmes, d'accord? Non, c'est quoi surnaturel? Surnaturel, c'est que tu as une grosse colère à l'intérieur de toi et tu te mets pas en colère. C'est surnaturel. Ouais, tu as une très très grosse remarque à faire à ton fils, mais comme tu lui en as déjà fait une la veille sur un autre sujet, donc celle-là tu la gardes pour plus tard parce que tu veux déjà qu'il y ait l'impact de la première. C'est surnaturel de se retenir de fracasser quelqu'un alors que tu as le pouvoir de le faire. C'est surnaturel. C'est surnaturel de t'être fatigué et de voir que l'autre il t'envoie balader parce que tu l'as épousé. Et au lieu de dire je vais l'envoyer balader, tu dis elle aussi elle doit être fatiguée, elle doit avoir ses raisons. C'est surnaturel. Ça s'appelle des comportements surnaturels. Pourquoi? Parce que c'est au-delà de la nature. Maintenant, quand toi tu vas suivre ta nature, ça veut dire que tu rentres dans une catégorie qui a fait de la nature un dieu. Ça va? Or, la nature, à Rabotai, elle fait partie d'un plan. Le plan, il est préprogrammé. Donc, celui qui devient l'objet de sa nature, automatiquement, il renonce au libre arbitre, puisque la nature, elle suit un plan programmé. Ça s'appelle les lois de la nature. Tu ne pourras pas empêcher l'hiver d'arriver, et tu ne pourras pas empêcher l'été d'arriver. Et tu ne peux pas empêcher l'eau de s'évaporer. Et tu ne peux pas empêcher le caillou de 200 tonnes, quand il tombe, d'écraser la maison. Ça va? Maintenant, toi, à l'intérieur de toi-même, tu as de la matière et tu as de la nature. Et à l'intérieur de toi-même, tu as une neshama. Maintenant, c'est cet antagonisme entre la matière finie de ton corps et la dimension infinie de ton âme, en fin de compte, c'est le paradoxe du judaïsme. Ça s'appelle le libre arbitre. Maintenant, là, la nature a des lois, ouais, et la Neshama, elle a des lois. Après, toi, tu décides de quel monde tu veux faire partie. Maintenant, comme ces deux mondes, en vérité, ils se juxtaposent, ouais, et ils interfèrent, c'est ça le problème. Ouais. Mais là, il y a un monde qui est lié à la nature, et là, il y a un monde qui n'est pas lié à la nature. C'est pour ça que Abraham Avinu, Hachem lui a dit, toi, dans ton mazal, tu ne peux pas avoir... C'est-à-dire que quand j'ai créé ce monde et que j'ai redistribué toutes les particules du monde et je crée tous les mazalotes du monde, toi, Abraham, dans ton mazal, il n'y a pas d'enfant. Et Sarah, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas. Maintenant, si tu sors de ton mazal et que tu n'es plus influencé par les doigts de la nature, parce que maintenant, tu vas être directement relié à moi, à Ni Hachem, Yudke Vavke, ouais, qui est au-delà de la nature, alors tu vas avoir des enfants, mais qui ne seront pas des enfants qui appartiennent aux lois naturelles. Qui appartiennent aux lois surnaturelles. Ça s'appelle les avot. Vous avez compris? Parce que, sachez, il y en a qui disent différemment. Il y en a qui disent qu'en fait, Abraham, Israël, Jacob, ils pouvaient avoir des enfants. Mais ils ne voulaient pas des enfants biologiques. Ils ne voulaient pas des enfants comme ça, tu les as vite fait. Ils ne voulaient pas des enfants qui sont là pour combler un vide dans la maison, pour régler les problèmes de Shalom Bayit, pour éviter que les gens ils se remettent en cause, pour faire le ciment du couple qui ne marche pas bien. Non! Ouais, ils voulaient des enfants qui soient des enfants de spiritualité. Et ce genre d'enfants-là, il ne faut pas les ramasser comme ça. ça demande du temps, ça demande des années, ça demande de la construction. C'est exactement pareil. Donc en réalité, l'idée, c'est quoi? C'est que l'homme, il a toujours le choix, comme à un niveau bas, de faire des petites choses ou de faire des grandes choses. Un homme, il a le choix de vivre de l'essentiel ou de vivre du superficiel. Ou un homme, il a le choix de participer à une aventure extraordinaire qui s'appelle la destinée du monde. Ou alors quelqu'un, il peut vivre une aventure naturelle qui s'appelle la destinée du monde. La destinée du monde, ça veut dire que on a besoin de cette rambarde-là. On en a besoin. Suivez ou non? Et on a besoin de ce meuble. Et on a besoin de cette feuille de papier. Ça s'appelle en français le décor. Maintenant, toi, tu dois décider, est-ce que tu vas faire partie du décor ou est-ce que tu vas être un acteur? Maintenant, des fois, les gens, ils croient que parce qu'ils ont choisi de faire partie du décor, ils sont libres. Maintenant, il y a des gens qui vont passer les trois quarts de leur vie pour avoir le droit à un certain type de décor. Ça s'appelle un décor de haut standing. Mais ce décor était déjà prévu. Je ne sais pas si vous... Ouais, le Rav Ezraïm, il dit, c'est comme si un gars, il est dans un train, et le train, il roule à 80 km/h. Alors lui, il a fait un petit peu des études de physique à l'école. Alors il dit, attends, je ne comprends pas. Comment le train, il avance? Ah, parce qu'il y a un wagon, locomotive qui le tire. Alors vous savez que la locomotive, elle peut tirer le train ou elle peut pousser le train. D'accord? Donc si tu mets la locomotive à l'arrière et que tu pousses le train, donc en fait, le train, il va atteindre une vitesse de 80 km/h parce que le train qui pèse, on va dire par exemple 200 tonnes, oui, le moteur du train, il a une puissance de 300 tonnes, donc la pression de 300 tonnes sur 200 tonnes, ça atteint 80 km/h. Ça va? D'accord. Maintenant, le gars, il se dit, mais attends, si tu me dis que le train, il avance parce qu'on a exprimé une pression de 300 tonnes, donc ça veut dire que si on augmente la pression, la vitesse, elle va augmenter. Il dit, oui, bien sûr, c'est normal. D'accord. Tu sais ce que je vais faire, moi? Je suis assis dans le train maintenant, il va à 80 km/h. Je me mets debout, j'avance à l'avant du wagon et je pousse comme ça. Je pousse. Donc, je rajoute une pression de 70 kg, ouais, sur les 300 tonnes. Donc, le train, il doit aller plus vite. Alors, les physiciens? Oui, non? Il va aller plus vite, le train, ou non? Oui ou non? C'est ridicule. Oui, non, oui, non, n'aie pas peur. C'est ridicule. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, si on n'est pas toute la journée en train de faire avancer un train qui avance tout seul? Toute la journée, on fait avancer un train qui avance tout seul. C'est vrai, la vérité ou non? Moi, je viens, je vous donne un cours. Mais vous n'avez pas besoin de moi. C'est lui qui veut se réveiller, qui veut avancer, qui veut bouger. Ouais. Alors moi, ça motive de venir vous le faire. Et vous, ça vous motive de venir écouter. Alors si vous voulez, vous, tous les jours, vous allumez Internet, vous prenez une heure et demie de votre vie, vous prenez des notes, vous avancez, ça vous avance. C'est plus vite qu'un cours par mois. Mais comme vous êtes des paresseux, et vous voulez la Torah qu'elle vienne comme ça, le téléviseur en plus, en réel, pas en virtuel, en réel, alors moi je viens et je vous fais kiffer. D'accord? Mais moi aussi ça me fait kiffer, parce que moi j'aime enseigner. Donc moi je kiffe d'enseigner, parce que je suis un paresseux d'aller m'asseoir tout seul devant ma Gemara. Et vous kiffez de l'écouter. Et bien voilà, la rencontre de deux paresseux, elle fait du bonheur. Pourquoi? Après le cours, ouais. Il n'y a pas de problème.
Il y a une différence.
Ouais, mais vous pouvez aussi envoyer des emails. Il y a toujours des solutions. Mais c'est quoi l'idée? Non, mais c'est intéressant. Je ne vous dis pas ça pour casser mon travail. Je vous dis d'arriver à comprendre que peut-être des fois on se dit que tu vois, nous on est derrière les enfants, on est derrière les enfants. Mais peut-être qu'en fin de compte, ils s'éduquent eux-mêmes. Genre, on croit qu'on a participé. Ouais, ça tu crois, je l'ai fait comme ça. Tu sais, un enfant, quand il a 8 ans, il te donne l'illusion que tu maîtrises. Mais quand il a 16 ans, t'as bien vu que tu maîtrises rien. Il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Tu dis, Haz Vechalov, c'est assourd, c'est pas possible, ça se fait pas chez nous. Il fait ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Il t'embrouille, il te ment, il fume, il mange, ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Là, tu dis, non, c'est impossible. Il fait ce qu'il veut. Si vraiment il a envie de faire des Averot, il fera des Averot. Et si vraiment il veut faire des Mitzvot, il fera des Mitzvot. Et tu seras choqué de voir que... Et toi, tu dis, mais non, parce que j'ai donné ça. Des fois, tu vois des enfants, tu les vois comme ça, mal, les trucs, en train de faire des bêtises. Après, tu les revois, ils se prennent en main, ils se mettent à faire des études, et ils révisent le dimanche. Tu dis, wow, le gars, je croyais qu'il était perdu. En fin de compte, il est sérieux. Donc méfie-toi de celui qui croyait qu'il était sérieux. Peut-être qu'il est perdu. Mais c'est pas l'idée. L'idée, c'est quoi? C'est de dire qu'en fin de compte, peut-être que dans notre destinée personnelle, on a un certain degré de liberté. Mais peut-être que dans la destinée, ce qu'il y a autour de nous, on n'est que des spectateurs. Spectateurs. Parce que quand toi, tu vois le film, tu dis pas... Ah, comme les gens qui viennent me voir à la fin du cours, ils me disent « Ah, colacavote. » Mais dommage, je n'avais pas parlé de ça et de ça et de ça. Je dis « Premièrement, je ne peux pas parler de tout. Deuxièmement, je ne peux pas parler de ce que toi, tu aurais dit. Alors, dis-le toi. » T'as compris? Si vraiment tu penses que tu as quelque chose à dire, mais dis-le. Non, le gars, il ne veut pas le dire, mais il veut que toi, tu le dises. Donc, en réalité, il veut quoi? Il veut rien critiquer. Ce que tu as reçu, c'est bien. Normalement, tu dois dire à ta femme, écoute, col à cavole. Tu dis à ton mari, extraordinaire. C'est comme ça qu'il faut faire. Non, mais tu comprends. C'est pas exactement ça, et puis c'est pour l'aider, c'est pour l'améliorer, c'est pour l'éduquer, c'est pour le faire évoluer, c'est pour... À la fin. Je vais vous expliquer. Vous rappelez les règles de temps ou non? Je mets la main, ceux qui se rappellent. Deux. Les rails de train, ils sont séparés, mais dans la perspective, ils se touchent. Vous vous rappelez de ça? Il n'y a pas beaucoup qui se rappellent. Hein? Moi, je vais me pendre ce soir. Bon, au moins les nouveaux. Vous rappelez les nouvelles, non? Je répète pour les nouvelles, et pour les autres, ça va faire une répétition. Mais c'est très puissant. J'ai dit ça à mon fils cette semaine, qui rentrait de la Yeshiva. Il m'a dit, papa, tu m'as fait mal à la tête. Écoutez bien. Mais ne prenez pas l'idée, parce que l'idée, vous la connaissez. Prenez ce qu'elle engendre, qui est incroyable. Vous êtes sur une voie ferrée. La voie ferrée, elle fait un kilomètre tout droit devant vous. Donc là, vous voyez bien que les deux parties de la voie ferrée, les deux rails sont séparés. Parce qu'il y en a un qui est ici, et il y en a un qui est ici. Vous voyez bien qu'ils sont séparés, non? Vous les voyez bien qu'ils sont séparés. Tu ne vas pas me dire à moi qu'ils ne sont pas séparés, ils sont séparés. Mais quand tu les regardes dans la perspective, il y a une loi dans la perspective, c'est que toutes les lignes dans la perspective, elles se rejoignent à l'horizon. Donc maintenant, tu vois qu'au bout, là-bas, les deux se rejoignent. Donc toi, tu crois que toi et ton père, vous êtes séparés? Regarde là-bas. Toi, tu crois que toi et ta femme, vous êtes différents? Regarde la perspective. Mais il n'y a plus vicieux, ça. Parce que ça, c'est l'avenir. Tu ne sais jamais. Hein. Bon, peut-être dans l'avenir, peut-être. Mais aujourd'hui, je ne peux pas le voir. Mais peut-être dans l'avenir, on ne sait pas. Mais il n'y a plus vicieux que ça. C'est que cette même voie ferrée, il y a 800 mètres, tu es passé par là-bas. Et ça, tu peux jurer sur la tête de ta mère qu'ils étaient séparés, les rails. T'es sûr? Je veux dire, ne prends pas le risque de te retourner. Parce que les rails par lesquels tu es passé qui étaient séparés, maintenant que tu te retournes, tu vois qu'ils se touchent dans la perspective. Hop, hop, hop. 8 ans de thérapie pour expliquer ta différence avec ton père, mais en fin de compte, vous êtes pareil. C'est-à-dire que même dans le passé, tu vas voir que vous êtes pareil. Il est beau celui-là ou non? Viens. Il est... Bon. Malheureusement, je suis obligé de vous dire autre chose, parce que sinon vous allez dire qu'il est venu pour 5 minutes. Mais c'est dommage, parce que le nouvel enseignement, des fois, il enlève l'impact de celui d'avant. Et à la fin, il vous reste le dernier. C'est pas grave. Donc maintenant, si c'est comme ça, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Que Akadosh Baruch Hu, il est venu et il a dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Je vais endurcir le cœur de Pharaon. Ouais. Et là-bas, il y a un langage incroyable dans le Midrash, Midrash Rabbah, entre Rabbi Yochanan et Rech Lakish. Rabbi Yochanan, il a dit de ce pasouk là, que c'est marqué Ve'ani irbadeti et let paro. Moi j'ai endurci le cœur de Pharaon, mais vous avez compris maintenant, il faut l'élargir à toutes les formes de cœur et toutes les formes d'endurcissement. Et on parle du Yetzerara, et on parle du Pharaon, et on parle du Pharaon qui est dans le cœur de l'homme. Parce que paro, ça s'écrit P-Resh-Ainé, ouais, et c'est les mêmes lettres que P-Ra. C'est la mauvaise bouche et la mauvaise voix. La voix à l'intérieur de toi, tu sais que c'est pas la bonne. Ouais, c'est la mauvaise voix et c'est la mauvaise voix. D'accord? Pera. Alors il dit comme ça. Amar Rabbi Yochanan, Mikan, comme c'est marqué que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, Mikan pitron pe la minim. De là, il y a un justificatif pour les minimes, les gens qui croient, les rebelles, les gens qui croient pas en Dieu, les morts en disant Lo aita mimeno sheyasi tshuva. En fait, Pharaon ne pouvait pas faire des tshuva. C'est quoi la grande question? C'est comment on va punir Pharaon parce qu'il n'a pas sorti les ministres d'Égypte, mais Hachem, il lui avait endurci le cœur. Vous ne pouvez pas les sortir. C'est comme si je te mets du scotch sur la bouche et je te dis, allez, dis-moi ce que tu en penses. C'est comme si je crie sur l'enfant et je lui dis, dis-moi la vérité. Et lui, il est tellement paralysé par les cris qu'il n'arrive même pas à parler. Et moi, je dis, t'as vu, s'il dit rien, qui ne dit rien consent. Il ne peut pas parler. Il a rien fait, mais il est tellement paniqué qu'il ne peut pas parler. Alors, ce qu'il a dit, Mikan pitrot pelaminim les morts, lo aïta mimeno chez Yahasetchouva chez Nehema, qui ani irbadeti et libo. Parce que moi, Hachem, il dit, moi, j'ai endurci le cœur de Pharaon. Donc Pharaon, il est condamné. Donc il ne peut pas laisser sortir Bnei Israël d'Égypte. Ouais, de la même manière, il veut dire, quand tu vois Racha qui fait des avérotes, c'est Dieu qui lui endurcit le cœur. Donc, il ne peut pas faire Teshuva. Qu'est-ce qu'ils disent les Chaïns? Ils disent, mais c'est Dieu qui m'a rendu menteur, c'est Dieu qui m'a rendu voleur, c'est Dieu qui m'a donné Yetzera, alors je suis condamné. Encore en plus, tu veux me punir parce que moi j'ai écouté la nature que Dieu m'a donnée. Le bon, c'est là. Ouais, c'est beau, non? Oui, non? Oui, non? Surtout que le psy va confirmer. C'est votre nature, c'est votre instinct, c'est votre personnalité. Vous êtes comme ça et c'est tout. Vous êtes coléreux. Et bien, le monde, il a créé des coléreux avec tous les gens autour pour subir les coléreux. C'est comme ça. Resh Lakish, il dit non. Il n'est pas d'accord. Il dit, Amaro, Rabbi Shimon ben Lakish, Isatem piu piem shel Rishaim, qu'elle se bouche la bouche des Rishaim. Et là, imla letzim ou yalit. Ouais. Si c'est les gens qui prennent à la légère dans la dérision, alors Hachem il va être en dérision avec les gens qui prennent en dérision. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, que Hachem il va être comme un miroir. Hachem il va être avec toi comme tu es avec lui. Il dit Akadosh Baruch Hu matrebo be adam pa amachat shniyah veshlishi. Hachem il prévient l'homme une fois, deux fois, trois fois. Arrête de faire ça. Ve'eno choserbo, mais l'homme il fait pas teshuva. Alors, ve'u no'el et libo. Alors à ce moment-là, Hachem il va fermer son cœur, kedeli froid mimeno machechata, afin de le faire payer ce qu'il a fauté. Ça va? C'est comme si le gars il a trompé sa femme pendant 10 ans, et après il dit excuse-moi, je regrette. La femme elle dit ok, mais j'ai deux problèmes. Premièrement, tu as fait ça pendant 10 ans, deuxièmement, j'ai plus confiance. Non, mais j'ai changé, j'ai réfléchi, j'ai vu un film américain sur la solidarité de couple, ça m'a fait quelque chose. Tu n'as pas de fiabilité, papa. Allez, c'est comme ça. Afkar paro aracha. La même manière paro aracha. Achal sheshiger akadosh bochou chamisha paramim velo ishgiach al devarav. Après que 5 fois Hachem lui a dit laisse sortir les ministres d'Égypte, 5 fois il a prévenu. Toi, tu as endurci ta nuque. C'est-à-dire, c'est quoi la nuque? C'est ce qui permet de se retourner. Ouais. Donc quand tu n'arrives plus à te retourner, tu ne peux pas faire tes chouva. Pas parce que tu ne peux pas faire tes chouva, parce que toi, tu es obstiné. Il y a plein de gens, malheureusement, qui confondent l'obstination et la détermination. Tu vois, il vient dans Shalom Bayit, d'accord? La femme, elle dit, voilà, le gars, il dit, moi, je veux sauver mon couple. La femme, elle dit, je veux rien savoir, d'accord? Alors, la femme, je dis, mais je comprends pas. Pourquoi vous voulez divorcer? Parce qu'il est comme ça et comme ça et comme ça. Je dis, d'accord. Je dis, maintenant, ça, c'est ce que vous voudriez qu'il soit. Oui, je voudrais qu'il soit comme ça et comme ça. Mais lui, pendant 10 ans, il n'était pas comme ça et comme ça, d'accord? Et alors? Eh bien, maintenant, je veux divorcer. Je dis, mais pourquoi? Puisque maintenant, il veut être comme ça. C'est que le mari que vous avez attendu pendant 15 ans, il est là maintenant. Mais pas, il part en l'air. Il a fait une thérapie, il a fait tchouva, il a pris sur lui, il a fait un travail de fond. Ça a pris 3 mois, le gars, il a changé. Et vous? Ah non, c'est trop tard. Non, je ne veux plus. Ça m'intéresse plus. Non, eh bien, j'ai plus la force. Et non. Alors, je dis, en vérité, c'est pas que vous n'avez plus la force. C'est que vous avez peur de prendre le risque d'être à nouveau déçu. Parce que vous dites, si, quand j'ai fait comme ça, il m'a mis un coup de poing. Alors j'ai fermé les portes en fer. Parce que j'ai peur que si j'ouvre encore les portes, il va encore me mettre un coup de poing. Parce qu'il m'a trompé une fois, il va recommencer. Il m'a menti, il va refaire. Il m'a manqué de respect. Il a trompé ma confiance. Il va refaire. Mais c'est ça la vie. Malheureusement, c'est ça la vie. La vie, c'est quoi? C'est de faire confiance. Ah, tu dis oui pour les enfants, ok, mais pour la femme, non. Pour le mari, non. Pour la femme, non plus. Ouais. Quelle différence? C'est dur. Maintenant, évidemment, on ne parle pas maintenant des cas spéciaux, des gens qui frappent, des gens qui volent, des gens qui embrouillent. Il y a des exceptions qui confirment les règles. Mais si vous prenez les trois quarts des gens, c'est très bizarre. Parce que les... En fait, on a dit que quand la personne faisait les efforts, l'autre, il en a profité pour être tendu. Ouais. Mais quand l'autre, elle a craqué, alors lui, il est prêt à changer. Maintenant, le problème, c'est que maintenant que lui, il est prêt à changer, elle, elle n'est pas prête à prendre le risque du changement. Alors, je dis, il y avait une seule erreur dans votre calcul de départ, c'est que vous avez oublié que vous n'êtes pas maître du timing. Quand tu espères quelque chose, tu ne sais pas quand ça va se passer. Tu ne sais pas quand la maison elle va se vendre, tu ne sais pas quand est-ce que ton fils il va se mettre au travail, tu ne sais pas quand est-ce que son mari va changer, tu ne sais pas quand est-ce que sa femme, ta femme elle va se réveiller, tu ne sais pas. Maintenant, étant donné que toi tu dis, bah, ça y est, c'est fini. On a dépassé le temps imparti. C'est le contraire. C'est que l'Eliezer Serrara, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que ce qui était à l'époque de la détermination et de l'espoir, il en a fait de l'obstination et du désespoir. Parce que moi j'ai vu beaucoup de gens qui soi-disant voulaient faire évoluer l'autre, mais en vérité c'était juste pour l'aider à, on appelle ça en psychologie des comportements laxatifs. C'est pour aider l'autre à digérer. Ouais. La preuve, c'est qu'au moment où la personne elle change, elle dit bah, ça m'intéresse plus. Là, je crois pas pendant 10 ans t'as attendu maintenant que l'autre a changé, ça t'intéresse plus. Donc peut-être que même à l'époque, c'était pas une bonne cabana. Peut-être déjà à l'époque, c'était Pharaon qui te disait embête-le. Parce que moi je vois des gens. J'étais à Londres mercredi dernier, j'étais voir une femme à l'hôpital, mais j'allais vomir. J'allais vomir sur place. J'allais vomir. J'allais mourir. La bonne femme, elle a attrapé un cancer très grave. Et alors que juste avant, elle avait eu quelques années avant, elle a eu un enfant autiste, que déjà depuis l'époque, son mari, il n'a jamais assumé. Donc lui, il s'est enfui dans le travail. Après, quand il y a eu l'enfant autiste, il était dans le déni, il va très bien, du coup, elle a tout assumé. Et maintenant qu'elle a attrapé ce cancer très grave, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui dit, oui, je suis sûr que tu me trompes. Et Dieu, il t'a puni. Ça veut dire, wah, le gars, il a fait le triplé complet. L'erreur du début jusqu'à la fin. Mais je ne savais pas quoi lui dire. Moi, je pleurais avec elle. On était les deux à l'hôpital à Londres, quand le matin, on train de pleurer. Après, sa mère est rentrée, j'ai pleuré avec la mère. J'ai dit, Ezé, Neshama, Yeshla, la bat, Shefra. Je me suis dit, comment elle a pu supporter les choses? Mais c'est quoi? C'est que la personne, elle ne veut pas. Déjà, le mariage, il ne voulait pas. En plus, elle m'a rappelé qu'il y a 7 ans à Miami, ils étaient mariés. Il ne voulait pas faire d'enfant, le gars, à cause de la parnassa. Elle m'a dit, vous lui avez parlé, il a switché, il a accepté de faire un enfant. Donc en vérité, il ne voulait pas se marier. Il ne voulait pas d'enfant. Ouais. Alors, à plus forte raison qu'il ne va pas assumer un enfant autiste. À plus forte raison qu'il ne va pas assumer un cancer. Maintenant, qu'est-ce que tu fais quand tu n'assumes pas? Quand le paquet il est trop lourd, tu cherches quelqu'un pour le porter. Alors, tu le donnes à quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est ton paquet, papa. Il y a le paquet de la femme et le paquet du mari. Vous suivez ou non? Il y a le paquet du père, il y a le paquet de la mère. Il y a le paquet du patron et le paquet de l'employé. Il y a le paquet du juif, il y a le paquet du goy. Et toi, ton paquet, tu le donnes à l'autre. Compris cette logique? Ouais. Mais ça, je te dis, les gens, ils croient qu'ils ont réfléchi et qu'ils ont assumé. En vérité, c'est faux. Ça s'appelle Ve'ani et Rebadeti et Tlef Paro. Ça veut dire combien de fois la personne elle t'a tendu la perche? Viens, on change, viens, on évolue, viens, on prend du temps, viens, on se parle, viens, on fait un week-end, viens, on va voir un psychologue, viens, on va voir un rabbin. Non, mais c'est pas tranquille, ah, tu me saoules, ah, t'es folle, ah, c'est toi qui es fou. Vous êtes sur une famille, vous êtes des fous, vous êtes des tordus, vous êtes des Tunisiens, vous êtes des Marocains, vous êtes des Tripolitains, vous êtes des. Des Libanais. Et maintenant qu'on est dans le blocage, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ben on va être obligé de prendre des mesures. Et ben, qui c'est qui t'endurcit le cœur? Va venir, va laisser cette parole. Mais c'est pas la première fois qu'on endurcit le cœur. Ouais. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et après la personne, elle lève les bras. Et après toi, tu viens, tu dis, je suis prêt à changer. Pharaon, quand il a accepté de laisser partir, il a même dit, au Béni Israël, puisque vous allez pour servir, donner des corbanot, donnez aussi pour moi. Je ne sais pas si vous suivez. C'est comme si Hitler, il dit à des juifs, si vous rentrez en Israël, profitez-en pour prier pour moi. C'est-à-dire que Pharaon, il est dans le déni de l'existence de Dieu, mais en même temps, il sait très bien que Dieu existe. Mais c'est pareil dans tout le monde. Ouais. Comme le gars qui renvoie son fils de la maison, et puis après qui demande à tout le monde comment il va, comment il va. Je ne comprends pas, mais je crois que tu t'en foutais. Et l'enfant aussi, il dit, ouais, mes parents, ils me saoulent, bon, avec leur religion, ils me saoulent, avec la religion, ils me saoulent, avec la religion, mais ses copains qui sont moins religieux que lui, mais là, qui va, fais-moi pas. qu'est-ce que tu vas faire avec une goya? Lui, le gosse qui dit à ses parents, n'est pas tranquille avec la religion, il fait faire que je vois que c'est quoi. Parce que pour lui, il n'arrive pas, mais pour les autres, il sait ce qui est bien. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Ve'ami Irbadeti et Libo. J'ai endurci son cœur. Voilà, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Shimon ben Lakish? Il a dit, sache que ça, c'est pas Dieu qui a fait ça. C'est que l'homme, il a choisi un chemin, d'accord? De une fois, deux fois, trois fois, il s'est enfermé. Alors, Amarlo Akadosh Baruch Hu, puisqu'Hachem l'a prévenu trois fois ou cinq fois, il n'a pas bougé. Amarlo Akadosh Baruch Hu, Hachem lui a dit, Ataik Sheta Orpecha, c'est toi qui as endurci ta nuque. Ve'irbadeta et libecha, tu as alourdi ton cœur. Arenim aussi flecha tuma al tumatecha. Je vais te rajouter de l'impureté sur ton impureté. Alors, c'est quoi ce langage? On a déjà expliqué des centaines de fois que le mot tuma, il a les mêmes lettres que le mot atum. Ouais, une explosion atomique. D'accord? C'est quoi l'atome? Atome, ça veut dire fermé, bouché. Donc, qu'est-ce qu'elle crée la touma? Elle crée des bouchons. Exactement pareil. Tu dois bien t'imaginer que à chaque fois que tu manges de la charcuterie, à chaque fois que tu manges des bonbons, à chaque fois que tu manges du gras, en fait, tu es en train de boucher tes artères. Petit à petit, l'artère, elle se bouche. C'est-à-dire que chaque pizza, elle te rapproche de ton infarctus. Chaque verre de whisky, il te rapproche de l'arrêt cardiaque. Maintenant, si ça arrivait d'un seul coup, on dirait, on accuserait les vendeurs de whisky de meurtre. Mais comme ça prend 15 ans, on appelle ça le plaisir de la vie. Voilà, tu meurs avec le sourire. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? C'est petit à petit. Alors c'est pareil maintenant. Comme quelqu'un, il ne s'entête pas directement. Doucement, il s'entête jusqu'à ce qu'il devienne obstiné. Tu vois, des gens, ils me disent, vous savez, j'ai certaines peurs. Je dis, écoutez, aujourd'hui, c'est pas grave, vous pouvez en parler. Mais après, ces peurs, ils deviennent des obsessions. Ces obsessions, elles deviennent phobiques. Ces obsessions phobiques, elles deviennent chroniques. Et quand ça devient chronique, c'est que tu vas voir, 8 fois, tu vas vérifier si elle a laissé la porte fermée. 19 fois, tu dis, je suis sûr que je ne l'ai pas dit. 14 fois, tu vas vérifier si la machine, tu l'as pas eu là. Ça veut dire déjà, c'est chronique. Là, maintenant, il faut commencer à prendre les médicaments. Alors, je dis, tant que ça n'est pas chronique, ouais. Gère ta peur, gère l'impact, élimine tout de suite le problème. Parce que sinon, tu es en train toi-même d'endurcir ton cœur. Ça s'appelle Mosif Tumal Tumatecha. Ça veut dire qu'un homme, en vérité, dans le rapport qu'il entretient avec la réalité, comme quelqu'un qui est paresseux, lui, il croit qu'il a trouvé un système pour ne pas faire d'effort. Mais c'est surtout qu'il s'est rendu incapable de faire un effort. Et plus il est paresseux, et plus c'est dur de faire un effort. Après, il dit, mais c'est dur. Quoi, il faut se lever, il faut travailler, il faut truquer. C'est connu que le plus dangereux pour un travailleur, c'est les vacances. Parce que c'est dur de redémarrer après les vacances. Donc les gens, ah, ils ne font jamais de vacances. Pas jamais. Ils font des coupures. Tu fais le Shabbat, tu fais un jour, tu fais une journée, tu fais une petite sieste. Là, j'étais Shabbat, j'étais à Toulouse, j'ai fait un Shabbat plein. C'était très très dur parce que c'était Shabbat Kala. Il y avait tous mes enfants à la maison et moi, j'ai laissé une table de 20 personnes. Et je suis parti. C'est rempli. Et j'ai dit, bon, ça fera des trouillottes pour le Hadan et la Kala. Mais et quand j'étais là-bas, c'est difficile, parce que tu fais cours pendant l'histoire. Tu fais cours avant, pendant la tefila. Après, tu fais un shiur d'une heure et demie, après manger. Après, les gens, ils viennent te parler. Après, le matin, tu dois faire shiur avant Moussaf. Après, tu as encore une heure et demie de shiur après manger. Après, tu as une demi-heure de coupure. Après, tu refais un shiur à Soudash Chichit. Après, tu as une heure de coupure. Après, tu fais une heure et demie avec des bakourim. Ça veut dire que le soir, tu hésites entre vomir et t'évanouir. Parce que c'est pas les petites vartoras. Rashi Omer, va par Racha. Tu fais évoluer les gens, tu fais grandir les gens. Comme c'était un groupe qui devait aller à la yeshiva l'année prochaine, je leur ai donné une pêche. Pour un an de travail, avec tous les pièges, avec tous les clichés, avec tous les... C'est dur. Tu donnes beaucoup de force. Je dis, mais alors, si tu ne gères pas, que là tu vas, tu t'allonges, ouais, une demi-heure, tu t'allonges un quart d'heure, tu t'allonges 5 minutes. Oui, je cours dans la... Vous savez, je les laisse là-bas, eux ils sont en train de... Ils ont fini, moi je mange de la fine en vitesse, eux ils sont encore à les salades, je mets le pyjama, je m'allonge, je dors. Je dors une demi-heure. Je me réveille, tac, il me tape à bord, je me ravis, j'arrive à la conférence. Ouais, il dit, ouais, il a une pêche. J'éclate pendant 2 heures, après je retourne vite, je me rallonge, je remets le pyjama, je redors. C'est vrai. Et après je retourne, et après je fais et je me rallonge, je redors encore une demi-heure et je reviens. Et bien sachez que si ça marche, mais à la fin t'as mal à la tête. Parce que tu dis,
je voudrais bien dormir une nuit complète comme tout le monde, comme les gens normaux. C'est difficile.
D'accord. J'étais à Londres mercredi soir, je fais cours 2 heures. Le gars me dit, on a un cas de divorce d'un jeune couple. Je vais après le cours. Mais c'est très dur à Shalom Bayit après le cours. Encore 2 heures. Après, tu vas pour dormir, le lendemain, le concert. Après, tu prends le train. Ouais. Il faut avoir pitié des rabbins. Heureusement, tous les rabbins ne sont pas comme ça. Hein. Sinon, on aura un problème de longévité dans la race. Mais c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? C'est ça. C'est qu'en fait, quand tu vois, tu fais une gestion, une économie de ta fatigue par rapport à l'effort que tu fournis. Là, c'est exactement pareil. Qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, tu dois réfléchir. Attention, parce que là, en vérité, je crois que par exemple, quand je gaspille l'argent, en même temps, en fait, je perds la valeur de l'argent. Et quand je trouve des systèmes pour ne pas faire d'efforts, en même temps, je deviens paresseux. Ouais. Et quand je me mets en colère facilement, en même temps, je détruis mon capital de patience. C'est-à-dire que si je me rends compte de ce que je deviens en même temps que ce que je fais, peut-être que je crois que je suis libre de ce que je fais, alors qu'en fait, je suis en train d'endurcir mon cœur. Ouais. Je suis en train de créer une mauvaise atmosphère à la maison. Je suis en train de créer un mauvais climat avec l'enfant. Parce que si tu fais un bilan, parce que le gars il me dit, bon, mais Rabbi, j'ai écouté le cours, bon, il faut être positif. Mais enfin, l'enfant, il fait des erreurs. Je dis, pas de problème. Alors quoi, alors? Je dis, c'est très simple. Si tu lui fais 90 compliments et 3 reproches, il n'y a pas de problème. Mais si à chaque fois qu'il ouvre la bouche, tu lui fais un reproche, tu arrives en retard, combien, quelle note tu as eu dans les maths? J'ai pas content que tu es arrivé tard à la synagogue, tu es mal habillé, ça sent la cigarette. Alors je dis, enfin, mon père, à chaque fois qu'il me parle, c'est pour m'engueuler. Peut-être que tu ne t'es pas rendu compte, parce que tu travailles pour lui et tu l'aimes et tu fais des cadeaux et tu oublies tout ça. Non, tu dois faire 90% d'excipients comme dans un médicament et 10% de médicaments. Un cachet, il y a 90% de sucre. Hein. Parce que qui c'est qui peut manger le médicament tout seul? Il est amer. C'est amer. Donc on est obligé de mettre du sucre. Et aujourd'hui c'est ça. Et aujourd'hui dans l'éducation c'est pire. Aujourd'hui, c'est 99% de gentillesse et 1% de remise en cause. Et crois-moi que l'enfant, il va accepter les 1% parce que tu lui as donné les 99%. Mais si tu fais l'inverse, tu dis, je vais l'élever à la dure, je vais l'élever à la dure. Vous savez, Rav Shach, il disait que avant une génération, c'était 25 ans. Maintenant, une génération, c'est 1 an. C'est-à-dire que les enfants de l'année prochaine, ils sont déjà plus comme les enfants de cette année. Alors nous, par rapport à nos enfants, moi je me rappelle des trucs que mon père il m'a dit une fois quand j'avais 8 ans, je ne l'ai plus refait de ma vie, une fois. Toi tu répètes 8000 fois, il n'avait pas entendu. Il dit mais j'avais même pas compris ce que tu racontais. Ah c'est ça? Ah mais il fallait le dire. Je n'ai pas envie de le dire. Ah, mais... C'est pas grave, hein? C'est notre génération, hein? C'est pas au Hachem, hein? C'est nos enfants. Mais c'est quoi l'idée? C'est ça, c'est qu'en fin de compte, Quand c'est marqué qu'un homme il fait un certain choix, il doit savoir que le choix dans lequel il s'engage, ouais, quand c'est un choix positif, il est mossif ta'ara al ta'ara, ouais, il est mossif gdusha al gdusha, il amène la sainteté sur la sainteté. Mais quand il fait un mauvais choix, il doit savoir qu'il est mossif touma la touma. Maintenant, c'est quoi la touma? Le Nefesh HaChaim il explique tumat avera ya'onesh, la punition de la faute, ouais, parce que dans ce monde-ci, on n'est pas puni pour les averot, mais on n'est pas récompensé pour les mitzvot. Ah, c'est quoi la punition de la faute dans ce monde-ci? C'est la touma, c'est l'impureté. Pour ça, c'est marqué « Sera, ravera, avera ». C'est-à-dire que quand quelqu'un il ment, la deuxième fois qu'il ment, il ment plus facilement. Alors lui, il croit qu'il est devenu plus efficace. En vérité, il est devenu plus tordu. C'est ça que c'est marqué « Ki aliyadam et abed achet et tochani aruchani ». Parce qu'en fait, le chôté, ouais, il perd son intériorité spirituelle par la faute. Comme j'ai dit l'autre jour, un gars il a volé, il a gagné 2 millions d'euros. Ouais. Il les a perdus en 1 an. Il a volé au téléphone, il a touché, il a gagné 2 millions d'euros. Il les a perdus en 1 an. Alors après, il m'a dit, oui, c'est pas évident, Raph, j'ai besoin, mais je ne peux pas travailler pour 15 000 euros. Je lui ai dit, mais ton vrai problème, c'est que tu as perdu la valeur de l'argent. Maintenant, le gars, il ne sait même pas ce qu'il vient. Il joue au poker, il perd 40 000 euros. Je lui ai dit, va travailler pour 2 000 euros. Il dit, c'est fou, quoi. Je vais me rabaisser. C'est un problème. Comment ça nous arrive à nous avec l'euro? Ouais. Avant, on payait en francs. En payant, je ne sais pas comment. En lire. Ouais, alors maintenant on te dit 3 euros, 4 euros, 5 euros, 15 euros. Ton fils il dit papa, donne-moi 15 euros. 15 euros, mais c'est 100 francs. Est-ce que ton père il te donnait 100 francs, toi? Jamais. Là, donne-moi 15 euros. Un gars il m'a dit ah, qu'est-ce que tu vas faire avec mon fils? Il a 16 ans. Il m'a dit qu'il veut aller au cinéma. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, écoute, le cinéma ça coûte 4 euros. Je t'ai donné 3 euros en plus pour t'acheter une boisson. Ça fait 7 euros. Qu'est-ce qu'il a dit, le fils? Il a dit, mes copains, leur parents, ils leur donnent 200 euros pour aller au cinéma. 200 euros! Alors le père, il a dit, je peux te donner 200 euros, mais la fin du mois, on ne va pas manger. Parce que c'est un gars qui a un tout petit salaire. Mais il est dans une école où tout le monde reçoit des 100 euros, 200 euros, 300 euros. Mais tu donnes 300 euros à un enfant. Mais tu ne lui as pas fait Thomas, tu l'as pourri. Non, je veux qu'ils soient à l'aise. Nous, on était serrés, on était angoissés. Maintenant, grâce à Dieu, on a de quoi. Mais tu l'as pourri. Tu l'as pourri parce que maintenant, il a perdu la valeur de l'argent. Mais celui-là qui a perdu la valeur de l'argent, il a aussi perdu la valeur du travail. Et celui qui a perdu la valeur du travail, il a aussi perdu la valeur des efforts. Et celui qui a perdu la valeur des efforts, il ne sait pas le reconnaître chez les autres. Donc, il a aussi perdu la valeur des personnes. Donc, le gars, il a perdu la valeur du travail, la valeur des personnes, la valeur de tout. Pourquoi? Parce que tu voulais te faire un kiff de lui donner beaucoup d'argent. Non. Là, il m'a dit, moi, j'ai mon fils, c'est Artelia, dans la anglaise, la fac, je ne sais pas quoi. Là. Ouais. Ouais. Il m'a dit, j'ai mon fils là-bas. Alors voilà, je lui ai donné, j'ai trouvé un appartement. Il est Artelia, il a un appartement, deux pièces, trois pièces, je ne sais pas quoi. Je paye déjà 600 ou 800 euros, je ne sais pas quoi. Après, je lui ai donné 400 ou 500 euros par mois. Plus, il a la carte bleue. Et je suis énervé parce que tous les soirs, il va à Tel Aviv, il fait la fête. Il dort chez ses copains, il dort même pas là-bas. Il arrive le matin, il est crevé à la fac, il ne fout plus rien. Je ne sais pas ce qu'il mange, je ne sais pas ce qu'il boit, je ne sais pas ce qu'il veut. Je lui ai dit, mais JH2, c'est une formule, ça veut dire jeune femme au carré. Je lui ai dit, tu vois, moi, j'ai un fils en Israël aussi, j'en ai plusieurs, mais j'en ai un, il est à la Yeshiva. Ouais. Tu sais combien je lui donne par semaine? 100 shekels. 100 shekels, 20 euros. C'est, ouais, 20. Il a 100 shekels par semaine, plus 100 shekels, si genre il veut aller voir sa sœur à Nathania, il a un bus à prendre. Et bien quand je lui donne l'argent de poche, il m'embrasse, il tremble. Enfin, merci beaucoup. Toi, tu lui donnes 1000 euros par mois, il te crache à la gueule. Il t'explose la carte bleue, il dit, attends, mais j'ai besoin, mais attends, tu m'étouffes, c'est quoi 1000 euros? Rien que mes pompes, déjà, regarde mes chaussures. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter des sandales. Tu as vu en fait ce que tu as fait? Et toi, tu dis, non, grâce à Dieu, on a les moyens, on peut les gâter. Tu les as pas gâtés, tu les as pourris. Donc, ça veut dire que tu es obligé de regarder que peut-être que toi-même, tu participes au travail, ouais, parce que lui, à l'intérieur de lui-même, il a Pharaon, il a Yetziratov, il a Pharaon, il a Moshe Rabbeinu. Et toi, tu as nourri Pharaon. Après, tu dis, c'est quoi ses enfants? C'est quoi? Mais qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Apprends-lui. Il a besoin de l'argent. Allez, il va travailler. Tu travailles pendant le mois d'août. Ouais. Il va travailler un mois. Il va gagner 800 euros. Ben, crois-moi qu'il va faire attention quand il va les dépenser. Moi, depuis l'âge de 16 ans, j'ai plus demandé d'argent à mon père. Il pouvait. Mais quand je voyais mon père toute la journée sur la machine à coudre, j'ai dit, je vais lui rajouter encore des manteaux à faire. Je travaillais pendant les vacances. Avec l'argent des vacances, j'avais l'argent de poche. Et il dit, mon fils, t'as besoin? Je n'ai pas besoin. Merci beaucoup. Allez, c'est bien. Et ça fait partie de lui qui vous devait. Par contre, après, quand je travaille, je lui donne. Et ça, c'est qui vous devait. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, il t'a donné quelque chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu crois à l'Yetzirara, la société, mais nous-mêmes, en tant que personne, combien on participe à l'évolution de la personne? Comment? Ouais, dans tout. Comment elle se plaint que son mari fait rien? Mais tu dis, moi, je voulais pas lui prendre la tête. Mais il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il ait son rôle. Qu'il ait son rôle de père. Ben, tu dis pas, voilà, c'est à toi d'intervenir. Non, le pauvre, il est trop occupé, je pense sur moi. Après, lui, il s'habitue, il est rentré dans un format où il ne faut plus rien. Après, quand tu lui demandes de faire un effort, maintenant que tu es fatigué, il dit, ben, écoute, chérie, trouve quelqu'un, parce que moi, personnellement, je suis occupé. Je suis occupé. Mais qui c'est qui a fait ça? Ben, Ami, il n'a pas laissé être paro. C'est toi qui l'as mis dans ce rôle-là. Tu dois dire, non, là, je ne peux pas. Là, c'est le rôle du père. Allez, je t'en prie, non. Là, c'est toi qui dois aller, tu vois, tu pars à ta fille, tu vas dans la chambre, tu pars avec elle. Moi, j'ai fait mon rôle de mère. Moi, j'ai fait la douceur, toi, tu dois faire la rigueur. Après que tu auras fini la rigueur, je vais repasser derrière. Je vais dire, tu crois que ton père, il est dur comme ça pour rien. Allez, va lui demander pardon. Maintenant, à ce moment-là, tu fais le papa gâteau, tu l'embrasses et tout ça. Mais d'abord, tu as fait la rigueur. Et moi aussi, j'ai fait la douceur. Mais en gros, je lui dis, écoute, mon fils, là, tu as exagéré, c'est trop. Alors, je vais dire à papa ce qui s'est passé. Ah, non, il n'y a pas, c'est comme ça. Donc, je fais la maman, rigueur et douceur. Et toi, tu fais le papa, rigueur et douceur. Seulement que ça travaille en partenariat. Mais c'est fini, non, le pauvre, il est trop occupé, je vais tout faire. Mais c'est mauvais. C'est très mauvais. Parce que, premièrement, l'enfant, il a besoin des deux facettes. Et deuxièmement, parce que lui aussi, il ne doit pas oublier qu'il a un rôle à jouer. C'est normal. Donc, ça, ce travail-là, c'est quoi? Ça veut dire que perpétuellement, dans tous les choix que je fais, je vais participer à libérer la personne ou je vais participer à enfoncer la personne. Et ça veut dire que quand moi, en fin de compte, je prends le rôle de quelqu'un, en fin de compte, je lui enlève le choix. Je lui enlève le choix. Malheureusement, de perdre le choix, ça, c'est frustrant chez les gens qui l'exigent, mais c'est confortant chez les gens qui l'acceptent. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas avoir le choix. Ils ne veulent pas décider, ils ne veulent pas assumer, ils ne veulent pas grandir. Alors ils restent à l'intérieur. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu, il envoie l'épreuve à la personne. Ouais. L'autre, la personne, elle entend des deux. Elle entend la voix du Yetzeratov et la voix du Yetzerara. Elle entend son corps qui parle et elle entend sa spiritualité qui parle. Elle entend que c'est l'heure de la synagogue et elle entend qu'il y a un client qui va venir à 8h30 au magasin. Elle entend les deux. Après, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un choix. Maintenant, ce choix-là, c'est pas le choix en fait entre la synagogue et le client. Ouais. C'est le choix de savoir quelles sont tes valeurs, quels sont tes principes. Ça veut dire, on te demande, définis-toi. Maintenant, sache que si ça choisit le client, ouais, demain, il y en aura deux clients. Et si tu as choisi la synagogue, le bon Dieu, il va s'occuper du client ou il va venir à te le remettre. Pourquoi? Parce que toi, tu as fait un choix. Et ça, c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre et qui n'arrivent pas à accepter. C'est qu'en fin de compte, tous les choix qu'on fait nous engagent. Les bons choix, ils nous engagent et les mauvais choix, ils nous engagent. Pourquoi? Parce que quand on rentre dans un choix, on crée une dynamique. Et cette dynamique, ça s'appelle mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah entraîne une mitzvah. Ouais. Comme malheureusement, avera goreret avera. Esrar mitzvah mitzvah. Esrar avera avera. Ça veut dire que le monde, il n'est pas statique. Le monde, ce n'est pas des photos que tu accroches sur un mur, tu dis tiens, je vais en mettre une. Après, tu dis tiens, je vais en mettre une deuxième. Après, non, je vais en mettre une troisième. Non, non, non. Pendant que tu dors, le monde il bouge, les actions elles bougent, ton corps il grossit, les pellicules elles tombent, les enfants ils pensent, le monde il bouge. Toi, tu crois que les choses elles vont à la vitesse de ta prise de conscience. C'est faux. La vie c'est un mouvement. Et toi, tu dois t'inscrire dans le mouvement. Maintenant, quand toi tu crois parce que tu n'as pas décidé, mais sache que la non-décision c'est une décision. Sache que le non-choix, c'est un choix. Seulement, c'est un choix où tu ne veux pas être acteur. Alors, tu vas être passif. C'est comme la destinée de la canette de coca qui est en train de descendre dans le caniveau, dans la ruelle de Rio de Janeiro. Le caniveau, il va descendre. La canette, elle est vide. Elle va descendre. Maintenant, toi, tu peux être comme cette canette. Tu te dis oui, c'est trop difficile, je suis dépassé par les événements, j'arrive plus à assumer, je sais pas ce qui m'arrive, je suis pris dans un rythme, je suis entraîné par les circonstances, tu vois, t'es comme ça, t'es toujours dépassé, tu peux jamais t'arrêter, jamais réfléchir, jamais décider, t'es toujours, toujours en train de régler le honnête, t'es toujours en cas de force majeure, et c'est pas toi qui as voulu, et c'est toujours la faute des autres. Là, t'es comme une canette vide qui est en train de descendre un caniveau à Rio de Janeiro. Ou non, non. Il y a le torrent, parce que la vie c'est un torrent, et toi tu es dans ton canoë-kayak, et comme tu es champion du monde de canoë-kayak, et bien non seulement que tu évites les rochers, mais en plus que tu profites du courant. Ça va? Ça veut dire que le chemin dans lequel on te fait aller, ouais, tu peux en profiter ou tu peux le subir. Mais le courant il existe. D'accord? Le caractère de ta femme, c'est le caractère de ta femme. Ouais. La personnalité de ton fils, c'est la personnalité de ton fils. Sa capacité cognitive, c'est sa capacité. Il est rapide, il est malin, il a un esprit lent, il a un esprit rapide, il est comme il est. Alors qu'est-ce que tu vas faire avec toi? Donc tu as deux solutions. Soit tu vas être écrasé par les données, ouais, parce que tu vas dire le magasin il est mal placé et le gosse il comprend rien. Non, le gosse, il ne comprend rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant qui va comprendre au bout d'une heure, lui, il va comprendre au bout de 4 heures. Eh bien, son format, c'est 4 heures. Alors, pourquoi tu t'énerves? Parce que toi, tu dis, mais moi, je comprends en une heure. Alors, pourquoi lui, il met 4 heures? Alors, t'as deux solutions. Soit tu vas le frustrer pour les 3 heures de plus, soit tu vas travailler tes midotes pour les 3 heures de plus. Si tu travailles tes midotes, tu vas avoir de meilleures midotes. Ouais. Et lui, il va être bouleversé par l'effort que tu fais, et du coup, il va mettre 2 heures. Soit tu vas lui reprocher les 3 heures de plus, que c'est pas de sa faute, de toute façon. Le pauvre, il fait ce qu'il peut. Ouais. Et toi, tu vas avoir de plus mauvaises midotes. Et en plus, tu vas être angoissé de dire je l'ai cassé, parce que tu vas réfléchir. Après, tu vas dire ah là, mais je comprends maintenant pourquoi il a peur, et pourquoi il me ment, et pourquoi il fait en cachette, parce que je l'ai écrasé. Mais c'est quoi ça? Ça s'appelle les chahim ou les nitramatol. Les chahim sont remplis de regrets. Et c'est quoi les regrets? Les regrets, c'est pas seulement ce que j'ai raté, c'est aussi ce que j'aurais dû faire. Maintenant, la vraie question, c'est comment ça se fait qu'au moment de la décision, j'ai choisi ce choix-là plutôt que ce choix-là. Alors j'ai dit pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que toi tu regardes chaque choix comme une ponctualité. Mais c'est faux. Chaque choix il rentre dans une droite. Parce qu'une droite c'est un ensemble de points. Ouais. Et la droite c'est une direction. Vous avez fait ça à l'école, d'accord? On vous dit. Alors le point c'est A, le point C2, le point C3, le point C4. Alors qu'est-ce qu'il dit le professeur? Alors voici les coordonnées. Dessinez la courbe. Dessine la courbe. Ouais. Mais toi-même, tu réfléchis. Tu dis, je comprends pas, mais tu étais ici. Après, tu étais ici. Après, tu étais ici. D'accord? Au début, je t'ai mal considéré. Après, j'ai pensé mal de toi. Après, je t'ai envoyé balader. Après, je t'ai dit des gros mots. Et hier, je t'ai poussé. C'est quoi la prochaine étape? Alors, l'homme, le problème, c'est qu'il voit le point. Ouais. Il faut pas voir le point. Il faut voir la droite. C'est-à-dire, on dit en français, on appelle ça la courbe de la vie. Attention, parce que là, tu prends une certaine tendance. Tu es sur une mauvaise pente. Là, tu es sur le bon chemin. Ben ça, c'est quoi? C'est que tu mets ta caméra au-dessus de ta tête et tu te regardes. Tu te dis, attends, je vais là. Viens, on prend un peu du recul. C'est pour ça qu'on doit faire du moussard tous les jours. C'est pour ça qu'on doit réfléchir à sa vie. C'est pour ça qu'on doit faire des bilans personnels avant de dormir. C'est pour ça qu'on doit faire un bilan le Shabbat. C'est pour ça qu'on doit discuter dans son couple pour savoir où on est, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ouais. D'être capable de parler avec sa femme, de son couple, comme si c'était le couple d'un autre. D'accord? Parce que si je parle toi et de moi, et moi et toi, ça va être difficile. Parce que les susceptibilités, elles vont en truquer. Mais si on se met les deux, on dit, qu'est-ce que ça pensait de cette soirée? C'est comme si vous étiez chez des amis, et vous avez vu le couple, il se manque de respect, il se parle mal, et puis je pense c'est honteux quand il a charrié. Quand vous avez vu, elle était toute rouge, et le gars, il a continué à se foutre d'elle pendant toute la soirée. Imagine maintenant que c'est votre couple à vous. D'accord? Et vous deux, avant d'aller dormir, vous dites, tu sais quoi? On ne peut pas aller dormir comme ça. Viens, on va parler, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mais j'étais énervé. D'accord, tu étais énervé. Moi, j'étais avec les enfants. Toi, tu me cries dessus. Après, moi, je prends sur moi. Et toi, tu insistes. Après, alors, à ce moment-là, tu vois que j'ai les larmes aux yeux. Et tu trucs. Alors, moi, maintenant, je le prends mal. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je fais comme toi. Je tape là où ça fait mal. Donc, je te parle de ta mère. Là, tu me dis, mais pourquoi t'as mis ma mère? Parce qu'il n'y a que ça qui fait bouger. Donc, si on était capable de parler de notre couple comme d'un couple étranger, ouais. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait? On se projette par rapport à notre réalité. Mais c'est ça que tu dois faire normalement avec toi-même. C'est ça le moussard. Le moussard, ça ne suffit pas de lire le message de Charim et de lire le Raphaël Cholovitz. C'est qu'il faut pratiquer l'exercice du moussard, de mettre une caméra au-dessus de sa tête et de se regarder des livres en temps réel. Et là, tu vas te rendre compte, est-ce que tu es dans un chemin où tu es en train de te libérer ou est-ce que tu es en train d'être dans un chemin que tu es en train d'endurcir ton cœur? Parce que tu vas le constater sur la courbe. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, pourquoi? Parce que le langage, il est bizarre. Parce que d'un côté, c'est marqué « Ve'u norel et libo », d'accord? Sous-entendu que c'est Hachem qui va fermer le cœur du rachat. Et d'un autre côté, c'est marqué « Ata ilcheta orpecha ». C'est toi qui as endurci ta nuque. Alors, comment on passe? C'est l'homme qui se met dans cette situation ou c'est Dieu qui le met dans la situation? Il a dit, il n'y a pas de problème. C'est quoi? C'est que pendant les premières étapes, c'est l'homme lui-même qui s'enfonce. Mais après un moment, il arrive à une situation de non-retour. Alors Hachem, il le termine. Si quelqu'un va dire, non mais que peut-être qu'il faudrait encore de la miséricorde. On a déjà expliqué déjà plusieurs fois qu'à un certain moment, la plus grande cruauté, c'est la miséricorde. Ouais, à un moment, la plus grande cruauté, c'est de dire, c'est pas grave, on laisse passer. Non, là, tu ne laisses pas passer. Oui. Quand on en est déjà au gros mot, on doit dire stop. Les gens ils vont dire, moi, elle est nerveuse. Non, 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 on est déjà au gros mot. C'est la prochaine célibat. Nous, quand on était fiancés avec ma femme, on a pris sur nous jamais un gros mot. Bon, ça fait 30 ans que je suis marié. Ma femme, elle m'a même pas dit fou. Fou. Alors, espèce de. D'accord, oui ou non? Fou. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que nous, on sait très bien qu'en fait, le Derechevenet et le Kavod, c'est des barrières de protection. Maintenant, quand tu casses les barrières de protection, sous prétexte qu'on est cool, et sous prétexte qu'on est a new generation, et qu'on n'est pas dans cet esprit ringard, et puis que nous, on le prend pas mal, et puis qu'on est psychologiquement libéré, c'est faux. Tous les hommes du monde, ça leur fait du mal, les gros mots. Tous les enfants, les gens du monde, ça leur fait du mal, le manque de respect. Tous les gens du monde, ça les détruit mentalement quand on est comme ça. Tout le monde, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est normal. Et à toute forte raison, quand c'est quelqu'un chez qui on investit, la solidarité et des sentiments, parce que plus qu'on est plus sensible, donc la douleur, elle fait plus mal. Et les insultes, ils vont plus loin. Exactement l'inverse. Mais même cet argument-là, de dire ça ne fait rien, tu devrais réfléchir comment ton truc, ça ne fait rien. Tu sais comment les gens disent ? Pas de toute façon, je m'en fous. Hein. Je sais, je m'en fiche pas mal. Tu sais, je m'en fiche pas mal. Non, mais tu t'en fiches pas mal. Que le gars t'a croisé sur l'autoroute, il t'a fait un signe du style, ouais. Mais que ton mari te fait quelque chose et tu t'en fiches. Ton mari te fait quelque chose, tu t'en fiches. Ton fils, il te fait quelque chose, tu t'en fiches. Non, tu peux pas. Tu dis, tu viens, tu t'assois. Tu es mon fils, je suis ton père. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ah, non. On verra les circonstances. Mais le principe, déjà, le principe en soi. Ça existe. Ça existe un manque de respect. Ça existe un gros mot. Ça existe un geste. Ça existe. Mais tout ça sort. De quelle galaxie tu viens? Maintenant, encore une fois, hein, moi, en tant que père, je dois réfléchir au terrain que j'ai créé qui a pu amener à ça. Parce que ce soit un terrain qui a poussé à l'énervement ou que ce soit un terrain qui a laissé faire le développement de la mauvaise qualité dans les deux cas. C'est-à-dire de manière passive ou de manière active. Et l'autre aussi, de réfléchir, est-ce que j'ai une kippa sur ma tête? Est-ce que j'ai compris ce que mon père m'a apporté? Et comment j'ai pu arriver à un truc pareil? Donc nous deux, on doit réfléchir. Pourquoi? Parce que sinon, ça veut dire qu'on est retourné s'enfermer dans notre Égypte. Et on a à nouveau écouté Pharaon. Non? Alors si c'est comme ça, alors le problème, il est que, il dit le Rambam, il dit comme ça. Ah non, le Ibn Ezra dit qu'ils aient des rechateva, c'est le chemin de la nature, c'est la nature de l'homme. Chez Adam mitkaché libo, que l'homme, son cœur s'endurcit. Et là, chez Yesh beyada Adam litgaber à la teva, seulement qu'un homme peut se renforcer pour lutter contre sa nature, à l'aider de Kudba Kadoshbaoukou, par le fait qu'il va se coller à Hachem. C'est un peu comme le cœur de palmier. Vous savez que le cœur de palmier, ça existe le cœur de palmier, oui? Il y a une discussion dans la Gemara. Est-ce qu'on doit faire? Ouais.
Palmito.
Ouais. Est-ce qu'on doit faire? Quel bras on doit faire dessus? Est-ce qu'on doit faire Adama? Est-ce qu'on doit faire Aetz? Est-ce qu'on doit faire chez Akol? Ouais. C'est un problème. Pourquoi? Parce que au moment où on coupe le cœur de palmier, c'est un cœur de palmier. Il est mangeable. Si on le laisse dans le palmier, il va devenir du bois. Il va devenir dur. Et sur le bois, on ne fait pas de bracha. Si vous coupez une branche et vous la mangez, il n'y a pas de bracha. Ça vous... Ouais, d'accord. Donc maintenant tu réfléchis. Maintenant, je ne parle pas de la Gemara là-bas, dans Brachot, là-bas, au 6e Pérec. Non, je réfléchis sur l'idée. Maintenant, pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit, si tu regardes Al-Shem Sofa, à la fin, ce cœur de palmier, il va être en bois. Ouais, donc tu es en train de manger du bois. Ouais. Ou non, tu dis, non, en vérité, ce cœur de palmier, il fait partie de la tige. Et la tige, c'est Adama. Où tu dis non, en vérité le palmier il est planté pour fabriquer du cœur de palmier, donc c'est comme la pomme, donc c'est le fruit, donc je vais faire arrêt. C'est ça la problématique. Si c'est le fruit de l'arbre, parce qu'on plante des palmiers spécialement pour faire du cœur de palmier, donc c'est le fruit de l'arbre. Mais je dis mais plus tard il va devenir en bois. Ça va? Alors moi je... D'accord. Non, on fait Adama sur le cœur de palmier. Maintenant, écoutez bien l'idée, c'est ça qui est important. Regardez, écoutez bien maintenant. Maintenant, quand quelqu'un, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, il réfléchit. Il dit que, c'est quoi le comme le cœur de palmier, comme le cœur de l'homme. La nature du cœur de palmier, elle est de devenir dure. La nature du cœur de l'homme, elle est de devenir dure. D'accord ? Alors, chez les hommes, on appelle ça de l'entêtement. Dans les couples, on appelle ça de la routine. Dans la religion, on appelle ça de la perte d'enthousiasme. Dans le business, on appelle ça « j'ai arrêté de rêver ». Ouais, j'ai perdu la pêche pour attaquer les clients. Tu vois, tu te rends compte, ça s'appelle. Ça s'appelle ce qui les Vénézva Zederechateva chez Adam et Caché Libo. Maintenant, qu'est-ce qui est marqué? Et là, chez Yesh Beyada Adam li Itgaber. C'est que toi, tu peux dire non, je ne vais pas laisser la routine s'installer dans mon couple. Ouais. Et je ne vais pas laisser mes a priori s'installer sur mes enfants. Et je ne vais pas me laisser m'endormir dans mon travail. Je vais avoir une nouvelle approche. Je vais développer un nouveau marketing. On va développer une nouvelle ligne. Je vais prendre un nouveau designer. On va changer la décoration de la boutique. Ça veut dire que tu peux être Mechadesh et tu peux être Midgaber. Tu peux amener du renouvellement. Tu peux amener... Pourquoi ? Pour éviter justement que le cœur se durcisse. Comme l'étude de la Torah. Ah, tu dis, j'ai déjà fait 3 fois ma vatra. Franchement, qu'est-ce que je vais apprendre de plus ? Alors, est-ce que tu es capable, toi, de ne pas tomber dans ce piège ? Maintenant, si tu dis d'un côté, c'est encore une mitzvah d'étudier Baba Batra, et d'un autre côté, je dois regarder Baba Batra comme si je ne l'ai jamais vu, donc en fin de compte, tu empêches l'endurcissement de ton cœur. Ouais. Tu empêches les a priori. Tu dis, bon, l'enfant, il est comme ça, je n'ai pas d'a priori. Il va changer, il va grandir, il va évoluer. C'est bien. Parce que comment tu vas apprécier l'enfant de 28 ans si depuis qu'il a 14 ans, tu penses qu'il est brève? Donc, c'est-à-dire que tu l'as bloqué dans une catégorie. D'accord ? Tu l'as bloqué dans une catégorie. Et ça s'appelle bien que c'est la nature de l'homme. C'est la nature. Pourquoi ? Je vous dis pourquoi. Parce que, étant donné qu'on est tout le temps obligé de prendre des décisions, donc on est obligé pour prendre des décisions de figer les choses. Mais le problème, c'est que quand on fige les choses, après on a du mal à les débloquer. Donc il faut avoir cette souplesse de figer pour la décision et de remettre en cause pour évoluer. Figer, évoluer, figer, évoluer, figer, évoluer. D'accord ? Comme si tu dis, voilà, le budget ce mois-ci, c'est ça. Après, ta femme, elle te dit, bon, ça me ferait plaisir qu'on achète ce truc-là. Eh bien, tu recalcules le budget. Ou tu dis non, écoute, c'est comme ça. Et là, elle s'étouffe. Maintenant, elle vient d'accoucher, c'est peut-être pas le moment de l'étouffer avec le budget. Alors, fais-lui plaisir. Maintenant, si elle est bien dans son cœur, de toute façon, tu auras la revoir le mois prochain, tu vas doubler la mise. C'est quoi ta peur ? Il faut le croire. Le mec va te dire, ah, c'est pas évident, mais c'est parce que c'est pas évident que ça marche pas. Tu finirais jamais le calcul. Ouais. Donc cette idée-là, c'est quoi ? Alors, c'est ce qu'il dit le Rambam. Efshar sheikhate Adam Chet Gadol. C'est possible qu'un homme va faire une grande faute. Achiten Adin Lifne Dayan Haemet. Jusqu'à ce qu'il va arriver le jugement devant le juge qui est de vérité, c'est-à-dire Hachem. Sheye Apiraon Mise Achote. Que le paiement, c'est-à-dire la punition de ce fauteur-là, chez Monreimi Meno Achouva, qu'on va l'empêcher de faire Teshuva. Ve'en Manichimlo Reshut Lashuv. On ne donne pas la possibilité de revenir, Mirisho, de sa Reshut, ouais, de sa mécréance, Kede Sheyamut Ve'yabet Becheto Ve'yas. Pour qu'il soit perdu et qu'il meure dans la faute qu'il avait. Ça s'appelle, ce qui est marqué là-bas, que, à la fin de l'Achot Teshuva, c'est dans Yoma là-bas, que il y a 24 personnes que elles m'a expliqué la haine à ce tchouva. On ne leur donne pas la possibilité de faire tes choix. Il y a deux manières de comprendre. Soit c'est que Hachem, maintenant, il est un dieu vengeur, il est un dieu cruel, ouais, et il va étouffer la personne pour qu'elle meure dans sa avéra. Soit qu'en fait, la personne inconsciemment, elle-même, elle s'est coupée les ponts de ce qui aurait pu l'aider. Par exemple, c'est marqué. Celui qui est Poresh Minatibo, celui qui se sépare de la communauté. Il y a des juifs comme ça qui disent, écoutez, la communauté, j'en ai marre, ils sont trop typés, et les feuilles, et les feuilles, et les feuilles, et moi je suis bien avec les Italiens. Alors au début, il va plus à la synagogue, après il est muté dans le sud de Bologne, et après il est dans un village complètement goy, et il n'y a pas d'école juive, il n'y a pas de boucherie cachère, et il n'y a pas de mikvé, il n'y a rien du tout. Et le gars, il se retrouve perdu. Comment il est arrivé là-bas? Il n'a pas été condamné. Mais quand la communauté va se réveiller, il n'est pas là. Donc il ne peut pas profiter de la prière, il ne peut pas profiter de Yom Kippour, il ne peut pas profiter de la dracha durable, il ne peut pas profiter de l'ambiance, il ne peut pas profiter des événements, parce qu'il est pour Echina Tsibo. Maintenant, ce n'est pas qu'on l'a puni qu'il ne peut pas faire les joies. C'est que lui-même, il s'est puni parce qu'il s'est sorti du circuit. Les gens, ils disent, c'est quand Kippour ?
C'est quand Shabbat? Ah, Shabbat, c'est le jour où on allume les minérotes. Non, ça c'est Hanouka. Ah.
Vous savez, quand vous voyez un juif qui a une Ashgacha de Goy, il faut réfléchir. Hein. Quand un juif il a une intervention divine qui est normalement pour un Goy, c'est qu'il a changé de définition. C'est des choses que, qui ne peuvent pas arriver, qui ne sont pas normales. C'est pas normal. Au bout d'un moment, il va devoir une Ashgacha, il va se passer quelque chose, il va être solution, il va jeter la barre. C'est vrai que c'est marqué aussi à Cholek à Libre Chamin, celui qui remet en cause les paroles des sages. Mais si tu n'as pas les sages, qui c'est qui va t'expliquer comment le monde marche? Qui c'est qui va t'expliquer comment la Torah marche? Je suis d'accord, oui, les rabbins, là, c'est des profiteurs, d'accord. Trouve un qui est vrai, mais sans rabbin du tout, mais comment tu vas faire? Tu vois, les gars, ils font le tour. Ils font les psychologues, ils voient les cancérologues, ils voient les psychologues, les sexologues, ils voient les marabouts, ils voient les liseuses de cartes, et après, ils reviennent chez le rabbin. Pourquoi tu viens chez le rabbin? Ah, rab, j'ai besoin d'un conseil. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu crois que ça sert à rien? Ben, retourne voir la liseuse de cartes. Oui, mais je sais pas, il m'arrive des trucs bizarres à la maison. L'enfant, il fait des cauchemars depuis des mois et des mois. T'as dit, il y a des choses qu'un juif ne doit pas faire. On ne fait pas des trucs comme ça. Oui, mais enfin, comme j'ai vu que ça marchait avec ma copine Christine. Mais avec Christine, ça marche. Mais avec toi, ça ne marche pas. Parce que toi, tu as une neshama. Elle n'a pas de neshama, ça. Ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. C'est un autre circuit. Donc là, c'est comme tu prends des médicaments pour les animaux, tu les donnes à ton fils. C'est pas adapté. Je n'ai pas dit que les gonies sont des animaux. Mais c'est pas adapté. C'est comme si tu veux lire ton journal en dessous de la mer. Tu peux pas, il va tomber en lambeaux. C'est un autre système, c'est une autre approche, c'est une autre sensibilité. Donc en vérité, c'est pas que Dieu t'empêche de faire tes chouva. C'est que toi-même, tu as enlevé chez toi la capacité. C'est pour ça aussi c'est marqué à Omer, RTV à Chouv, En Maspikim Lola Sotchouva. Celui qui dit je vais fauter et je vais faire tes chouva, on lui donne pas la possibilité de faire tes chouva. Pourquoi? Encore une fois, c'est pas que Dieu il est méchant. Ah, toi tu m'embrouilles. Alors je vais t'embrouiller. Non, ça n'a rien à voir. C'est que la teshuvah, ça vient du mot, la shuv, ça vient du mot boucha. Ouais, shuvah, c'est boucha, c'est les mêmes lettres. Et boucha, c'est quoi? C'est la honte. Et la teshuvah, c'est quoi? C'est le mal-être entre ce que je devrais être et ce que je suis. C'est que celui qui perd la honte, il ne peut pas faire teshuvah. Comme le gars qui a tellement menti que ça ne le dérange plus de mentir. Donc il ne peut pas faire teshuvah sur le mensonge. Pas parce qu'on lui a coupé un cordon dans le système, ouais. C'est parce que maintenant il est devenu une nature de menteur naturel. Alors si tu mens et que ça te dérange, ou si tu mens et que tu te justifies, que tu te légitimises, alors après tu peux faire tes chouva sur ça. Mais celui qui dit RTVHU, ouais, pourquoi il ne peut pas faire tes chouva? Parce que on a dit que c'est la teshuva c'est un choc. Genre j'ai honte, il se passe un truc en moi. Mais quand moi j'ai aménagé qu'il n'y aura pas de choc. Pourquoi? Parce que la teshuva en vérité c'est médiéval, c'est a posteriori. Quand j'ai fait quelque chose de mal, a posteriori je m'en rends compte, je me sens mal. Mais si moi j'ai déjà prévu qu'après que je vais fauter, je vais faire teshuva. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai rendu l'a posteriori a priori. Ça va? C'est comme si quelqu'un il est en voyage, il est seul et il a bu un coup de trop et la secrétaire est à moitié folle, elle lui saute dessus. Le gars il a fait une erreur. C'est pas la même chose que quelqu'un qui organise, il dit à la secrétaire, bon, on se retrouve à Florence, voilà l'hôtel, j'ai pris le billet, je dirai à ma femme que je suis à Montpellier, toi tu diras à ton mari que t'es à Montauban, et on se retrouve là-bas. C'est pas la même chose. C'est plus dur de faire tes chouvas sur ça que de faire tes chouvas sur un accident de la vie. Parce que t'as bien un coup de trop, l'hôtel a profité. Ouais, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que t'as anticipé, t'as réfléchi, t'as fait une avéra intelligente. Maintenant, plus l'avéra elle est consciente, et plus la teshuva est difficile. Quand la vera est inconsciente, parce que tu ne savais pas, parce que tu ne te rendais pas compte, parce que tu t'es laissé aller, parce que tu étais à moitié bourré, parce que tu avais fumé n'importe quoi, alors tu dis, j'étais pas vraiment là. C'est ça, ça s'appelle RTVHO. C'est-à-dire que plus tu as fait la vera en conscience, plus tu as fait la vera a priori, ouais, donc tu es a posteriori, a priori. C'est comme si tu montes une montagne, et au fur et à mesure que tu montes, tu jettes la corde. Tu montes et tu jettes les cordes. Mais comment tu vas redescendre? Hop! Dieu est grand. Ça, tu ne vas pas redescendre. Même les gens, quand ils attaquent des banques, ils ont toujours un plan de retrait. Un plan B. Ouais. Toi, tu n'as pas de plan B, toi. Donc, c'est ça l'idée. dit que la personne, quand elle réfléchit et qu'elle voit qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il a mis devant la personne le choix. C'est ça ce qui est marqué. Natati lefanecha et achaim et amamet, j'ai donné la vie et la mort. Ouais. Ça veut dire qu'un homme, à la bar mitzvah, on va dire entre guillemets, s'il a été bien éduqué, il a 50-50. Il a 50-50. Il a le choix de faire le bien et de faire le mal. Le problème, c'est que pour l'instant, c'était que de l'éducation. À partir d'un bar mitzvah, ça va être de la formation. C'est-à-dire que où lui, il va se rajouter, il va s'investir, et il va donner dans la sainteté, dans la kedusha, et donc maintenant, ça veut dire une kedusha qui lui appartient. Ouais. Et là, maintenant, il est en train de tricher. Parce qu'il était à 50-50, maintenant il est à 55, 60, 70. Maintenant, quand quelqu'un est à 70 dans le bien, il lui reste que 30 dans le mal. C'est plus dur de faire le mal. Oui. Mais ça vient de lui. Quand le contraire, quelqu'un, si à partir de la marmise, il commence à tricher, il dit à son fils, à son père, papa, les filles, c'est le catin, ça me stresse. Là, qui part, j'ai honte. Après, il dit, il était fini, j'ai oublié de les mettre. Après Mincha, je serai deux fois à vie. Après la casse-croûte, il dit c'est compliqué, comment je vais faire, on habite à Jérusalem. D'accord. Donc, qu'est-ce qui va se passer petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Maintenant, toi, de l'extérieur, tu vois la courbe, et tu hésites, parce que si je le stresse, il ne fait plus rien. Si je dis rien, ouais, mais je dis, mais déjà, il a été te voir. Il a dit, papa, ça te dérange si j'enlève la kippa. Et lui-même, il t'a demandé. C'est-à-dire, il t'a dit, dis-moi de ne pas enlever la kippa. Et toi, qu'est-ce qu'il a dit? Ah ben, mon fils, enlève la kippa. Ce que tu dois lui dire, tu dis, écoute, mon fils, fais comme tu sens. Mais tu m'as vu un jour sans la kippa? Il dit, je ne t'ai jamais vu. Alors fais comme tu veux. Il va comprendre. Mais si toi-même, tu fais, wash la kippa éjectable. Éjectable. Lui aussi, il va dire, t'as vu faire la tefila, t'as vu faire la tefila. Il dit, non, des fois, on ne peut pas, c'est difficile. Bon, les enfants, c'est pas grave, on fera mitra deux fois, on fera mitra. Il t'a vu. Ah, il t'a vu, ça y est. La faille, il a trouvé la faille. L'enfant, il fly dans la faille. Il n'y a pas de faille. Perpétuité, vérité, stabilité. Son père et sa mère, deux images. Oh là. Pas de bottes de paille avec le vent. Deux immeubles avec des fondations qui vont jusqu'à Beyrouth il y a 200 ans et qui remontent jusqu'en haut là-haut, jusqu'à New York. Ah, ça c'est du solide. C'est du solide. Le gars il fouille, il refouille, il trouve encore. Il commence à avoir des valeurs. Comme l'archéologie. Tu fouilles, tu trouves. Tu fouilles, tu trouves. Ah, c'est quoi cette famille, c'est quoi ces valeurs? Tu connais le fils, tu connais le père, tu connais le grand-père, tu connais l'arrière-grand-père, tu vois les photos de l'arrière-arrière-grand-père, tu te dis waouh, tous des fusées. C'est comme tu veux. Ouais. Ou le contraire, tu dis écoute, ma grand-mère, bon, il s'est passé des trucs, on préfère ne pas en parler. Bon, le grand-père, il est parti avec. Bon, on laisse tomber. Celui-là, bon, l'autre, il n'a pas vraiment choisi son bord, on n'a jamais su si vraiment c'était un homme ou une femme, puis oh, ça va être compliqué. Mais c'est marqué ici. Mais c'est l'inverse. Que quelqu'un en vérité, le contraire, il fabrique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Hachem, il a donné le choix pour qu'on renonce à son choix. Comme toi, quand tu t'es marié, le jour où tu t'es marié, tu as renoncé à toutes les femmes du monde. J'espère pour toi. Tu t'es marié, tu as renoncé à tous les hommes du monde. Quand tu as choisi la Torah, tu as renoncé aux chokhmot bizarres. Ouais, c'est normal. Quand tu as compris que tu devais être un gars sérieux, tu bois un petit verre, tu bois un petit verre. Mais jamais de ta vie tu vas te saouler. Allez, on peut se lâcher. Non, non, non. Même un pourri, il ne faut pas se saouler. Il ne faut pas se jeter par terre et vomir par terre. Non, tu le bois un petit peu, je suis bien. Voilà, je suis bien. Je vois que la Megillah, elle bouge un peu. Allez, ça suffit. Ah, les gars, ils sont crasses. Ça s'appelle pas Ubachata Bahaïm, ça. Tu n'as pas choisi la vie. Là. Ouais. Parce que sinon, aujourd'hui, tu es pour être guéder de l'alcool, tu dépasses la limite de l'alcool, et demain, à cause des problèmes de la boîte, tu vas dépasser les limites de l'honnêteté. Et après, à cause du décolleté, tu vas dépasser les limites de la voisine. Tu vois, c'est ça ton problème. C'est pas l'alcool, c'est pas l'honnêteté. Le vrai problème, c'est la limite. Donc, qu'est-ce que tu fais en réalité? Pas par pas, tu construis en fin de compte ton renoncement au libre arbitre. Et c'est comme ça qu'on voit la valeur de quelqu'un. La valeur de quelqu'un, ouais, c'est qu'en fin de compte, à la fin, il est tellement emprisonné par cette tzidkout, ouais, qu'il ne peut pas faire la démo. Même contre son gré. Je vous raconte l'histoire. Il y a deux gars qui marchent dans la rue, d'accord? Et il y en a un, il voit une femme mal habillée, mais genre un canon, mais mal habillée. Alors il dit, bon, t'as vu la fille comment elle est? Le gars, il tourne la tête, mais il y a, juste à ce moment-là, il y a un autobus qui passe, et la fille, elle est rentrée dans une bouche de métro. Donc il l'a pas vu. Maintenant, tu réfléchis, pourquoi toi tu l'as vu, toi tu l'as pas vu? Non, non. Parce que lui, il est dans un chemin de préserver ses yeux, et qu'il a que sa femme, et il veut pas regarder autre chose, il veut garder sa tête pour la prière, il veut garder la pureté pour l'étude de la Torah, il veut faire attention à sa bouche. Alors automatiquement, il est dans un chemin où la femme mal habillée, elle vient pas, il la voit pas. Elle n'est pas dans ses arba amot. L'autre, le contraire, lui, il adore ça, il cherche. Bédère Sherotéler, on l'écrit autant, on va le trouver. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, les choix que tu as faits, ils se démontrent à travers la réalité qu'on t'envoie. Donc en vérité, un homme, toute la vie, il garde le choix. Mais seulement le problème, c'est qu'au fur et à mesure des directions que tu prends, tu renonces à ton choix, ouais, ou alors tu prends un choix. C'est pour ça que la Teshuvah, c'est un miracle. C'est un miracle. Parce que si quelqu'un vraiment il s'est engagé dans une logique de mensonge, une logique de Touma, une logique de Dkhla, comment il peut faire Teshuvah? C'est le gars, depuis qu'il est petit, on l'a conditionné qu'il est un singe. On lui dit maintenant tu vas faire des mathématiques. Il veut pas. Le mec, c'est un singe. Maintenant, lui, il s'est convaincu qu'il est coléreux. Elle s'est convaincue qu'elle est superficielle. Moi, je suis superficielle. Elle est là en train de se faire maison toute la journée. Puis, viens, on va réfléchir. Viens, on va évoluer. Viens, on va grandir. Oh, laisse-moi tranquille. Tu me souffles. Bon, ça va, t'as bien la jupe. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, mais t'es pas un singe. T'es une personne. T'as un truc à dire. Tu me compares. Tu veux parler de ta fille. Non, mais c'est bon. Ah, tu vois, j'ai tout repéré là. C'est bon, comment tu te trouves là? Est-ce qu'une femme superficielle, elle peut devenir essentielle? Ça, c'est le miracle de la Teshuvah. Tu vois que ça existe, que la personne a un choc, ouais, avec son enfant, avec sa famille, avec sa santé, et d'un seul coup elle dit, mais attends, mais je suis en train de prendre la tête pour des trucs alors que j'étais à deux doigts, j'ai été sauvé d'une grave maladie, la personne elle se réveille. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Baruch Hashem, malgré que l'on est condamné par les choix qu'on fait, mais on ne perd jamais l'étincelle de s'en sortir. On perd jamais. C'est pour ça qu'on a vu des grands, grands Réchaïm, la Gemara elle donne des exemples, des grands Réchaïm, qu'au dernier moment, ils ont remis en cause. Maintenant, je ne peux pas signer en bas de la feuille que le gars qui s'est réveillé 10 minutes avant de mourir, il va atteindre le même niveau que le gars qui s'est préservé pendant toute sa vie. C'est quand même un petit peu intelligent. Ouais. Qu'a dit la Gemara, ce juif-là, Racha, qui s'était mis avec les Romains? Et quand ils sont arrivés devant le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, quand ils ont pris le temple, ils ont eu peur de rentrer. Les Romains, ils ont eu peur. Alors ils ont dit à quelqu'un, un juif, rentre là-bas, rentre. La première chose que tu prends, c'est pour toi. C'est pour toi. Il est rentré, qu'est-ce qu'il a pris? La menorah. Je ne sais pas si vous me suivez. C'était les rentrées dans le Kodesh HaKodashim, là où le Kohen Gadol est rentré une fois par an. Et le Kohen Gadol, c'est le plus saint de tous les Kohanim, qui eux-mêmes sont plus saints que tous les Lévites, qui sont plus saints que tous les Israël. Et lui, un rachatant du pourri, qui mangeait du porc et qui allait avec les prostituées, il est rentré dans le Kodesh HaKodashim, il a pris la menorah, il est sorti avec. Les Romains, ils ont vu cette beauté, ils ont vu cette kedusha de la menorah, ils ont dit ça c'est pour un roi, c'est pas pour un gars normal. Ils l'ont dit retour, il a dit non. Ils ont dit mais tu viens de sortir. Ils l'ont dit retourne, il a dit non. Ils l'ont fouetté, il n'est pas rentré. Ils l'ont écartelé, il n'est pas rentré. Pourquoi? Il a dit, mais pourquoi tu viens de sortir? Il a dit, on ne met pas deux fois son Dieu en colère. Tu peux m'expliquer comment le gars, il y a 5 minutes, il était Racha Gamour, et 2 minutes après, il meurt à Kiddush Hashem. Hein? Ça veut dire qu'à l'intérieur de soi-même, des fois le choc il est négatif, et des fois le choc il est positif. Des fois tu as entendu un bon cours, et ça t'a ouvert le cœur. Et des fois tu as pris une bonne trecha, et ça t'a ouvert le cœur. Chacun y choisit le mode de réveil. Donc les gens un peu malins, ils se réveillent en douceur. Et les autres, ils appellent de leur vœu la treha. Inconsciemment, ils appellent. Vous voyez? Comme l'enfant qui vole, jusqu'à ce qu'il va se faire attraper. Et quand il se fait attraper, il ne se révolte pas. Et au contraire, il s'accroche, il dit merci papa d'être venu. En fait, il voulait se faire attraper. Parce que lui-même, il n'arrivait pas à lutter contre son Yetzirara, donc il voulait que tu ailles le chercher. Maintenant, imagine-toi qu'au lieu de faire ça avec ton père, tu fais ça avec Hachem. Hachem, il te dit, mais fais ce que tu as à faire. Et toi, tu dis, non, laisse-moi tranquille, je n'ai pas la tête. Alors Hachem, il te dit, je t'explique, t'écoute pas, je t'explique, t'écoute pas. Alors il t'envoie une terre. Tu dis, on essaie des circonstances. Il t'envoie une troisième, une deuxième terre. Après, tu dis, bon, c'est un hasard. Alors, il t'envoie une quatrième. Parce que si tu es cambriolé quatre fois le jour de Rosh Hashanah, année après année, tu peux réfléchir quand même. Ouais. Ils ont tout volé, sauf les Sefer Torah. Je réfléchis, toute la maison, elle a brûlé. Sauf la bibliothèque de Torah. Même si tu n'es pas croyant, quand même, tu dis c'est quand même bizarre. Hein? Tu vois bien qu'il s'est passé quelque chose. Alors après, c'est quoi? C'est que tu vas décider où tu vas ouvrir les yeux et tu vas voir clair, ou tu vas continuer à fermer les yeux. Et c'est ça le choix. C'est-à-dire que l'homme, en vérité, le niveau du choix, il est entre la proposition qu'Hachem va te faire dans la réalité et l'idée qu'il va te mettre dans la tête. Maintenant, lui, il t'envoie une impulsion positive de faire quelque chose de bien, ouais, et il y a une réalité devant toi qui est l'épreuve. Et dans cet espace-là, entre le chemin qu'on te propose et la proposition qu'on te fait à l'intérieur, c'est juste à ce niveau-là qu'est le domaine de définition du libre. Et toi, tu vas décider. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Rachid dit, il y a deux chemins devant l'homme, le chemin du bien, le chemin du mal, et toi, tu as seulement le ratson, tu as seulement la volonté. Maintenant, tu prends cette volonté, tu la mets dans le bien. Hachem, il va t'aider à faire le bien. Mais attention, tu prends cette volonté, tu la mets dans le mal, Hachem, il va t'aider à faire le mal. Et c'est toi qui es condamné alors qu'il t'a aidé. Pourquoi? Parce que c'est ça le prix de la liberté. Le prix de la liberté, c'est que si tu es prêt à assumer les conséquences positives, il faut que tu acceptes d'assumer les conséquences négatives. C'est seulement l'erreur de croire que parce que genre tu n'as pas pris la décision et que tu t'es laissé aller, tu crois que ce n'est pas un acte. C'est aussi un acte. Mais ça, c'est un acte dans le laisser-aller, et ça, c'est un acte dans la prise en charge. Maintenant, si quelqu'un choisit la liberté, ça veut dire qu'il choisit la maturité, et à ce moment-là, ça s'appelle qu'il a le choix. Il s'appelle Baal Bechira. Mais quand quelqu'un, il refuse d'avoir le choix, il perd sa Bechira. C'est pour ça qu'on dit que quand Akadosh Baruch Hu, il a sorti les bénis Israël d'Égypte, et qu'il a proposé à Pharaon de sortir les bénis Israël d'Égypte, il leur a dit, fais les sortir. Donc, il a dit non. Mais Hachem, ils savaient très bien qu'ils allaient sortir. Seulement, il a dit à Pharaon, c'est dommage. Parce que toi, tu aurais pu participer à la sortie d'Égypte. Toi-même, tu aurais dit, allez les enfants, allez maintenant, allez servir votre Dieu. Et tu les auras accompagnés. Et toi-même, tu aurais loué Dieu. Non, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait le contraire. Tu l'as dit, non, je ne les laisse pas sortir. Mais tu n'as pas compris. Dieu, c'est un tsunami. Et toi, tu es une maison en paille. C'est toi, tu veux voir. Donc ils vont sortir. La seule différence, c'est que toi, tu seras paralysé, d'accord? Tu es paralysé et eux, ils sortent. Donc dans la scène de la sortie d'Égypte, il y a les pyramides, il y a des palmiers, il y a des dunes de sable et il y a Pharaon. Et comme les dunes de sable n'ont pas le libre arbitre, Pharaon aussi n'a pas le libre arbitre. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas décidé d'être acteur du miracle, automatiquement tu deviens spectateur du miracle. C'est pareil, ouais. Tes enfants, tu t'investis avec eux, tu leur donnes, tu les encourages, tu leur donnes le meilleur. Maintenant, s'ils n'ont pas choisi le meilleur, qu'ils ont choisi un autre chemin, là aussi tu peux décider où est-ce que tu vas être bloqué dans ton entêtement, ou tu vas continuer à les aimer et les accompagner dans leur choix, même si leur choix il va leur coûter une tréha qui va peut-être leur faire perdre 10 ans de vie. Mais ça reste tes enfants. T'as compris la logique ou non? Pareil avec ta femme, pareil avec ton mari, pareil avec le business. Ouais, tu es obligé. Tu es obligé d'accompagner le marché. Ah, maintenant, ça, dans cette affaire-là, tu as perdu. Et dans celle-là, tu as gagné. Mais si tu vois que tu dois sortir, tu sors. Si tu dois continuer, tu continues. Mais c'est quoi que tu accompagnes les désirs? Tu restes acteur. Dès que tu as peur et que tu deviens spectateur, alors automatiquement, tu ne participes plus à l'effort. Avec ou Baro? Alors le cours est dédié. Donc les deux Mishmatam, de les quatre personnes qui ont été assassinées, les cinq personnes qui ont été assassinées. Le prochain cours, ça sera Bézant Hachem
le 8 février.
Le 8 février.
Le respect.
Le respect.
Un droit pour tous.
Un droit pour tous. D'accord. Ah, j'ai une autre chose à vous dire. On a. On a mis en place une autre opération différente un peu cette fois-ci. C'est que j'ai fait des clés USB avec 51 cours dedans. 51, d'accord ? Vous pouvez les télécharger sur le cours, sur le site internet. Ça coûte 250 euros. Mais si vous le prenez comme ça, ça coûte 100 euros. Celui qui veut. Non, si vous n'avez pas l'argent sur vous, vous pouvez payer par PayPal sur le site internet. Voilà, j'en ai juste 4 pour aujourd'hui parce qu'ils sont partis à Tigris. Enfin, ceux que ça intéresse.